Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Et bienvenue dans l'équipée sauvage, 2 heures joyeuses informatives, si chères à Mathieu Noël, que vous retrouvez bien sûr tous les après-midi. À ses côtés, Eva Roque, sa grande complice, nos journalistes en compétition pour remporter le titre de chroniqueur du jour, un invité d'honneur dont le vote d'ailleurs compte triple. Et le week-end, eh bien, vous l'avez compris, on vous compile le tout. Cette semaine, ils étaient avec nous, la comédienne Isabelle Carré, la romancière Anne Goscinny, l'acteur et écrivain Samuel Le Bihan, l'écrivain Daniel Pénac et l'animatrice Alessandra Sublet. C'est donc parti pour 2 heures de bonne humeur.
2 heures d'une aventure zygomatique qui vous permet chaque après-midi de noter les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un système de notation qui, Dieu soit loué pour elle, n'existait pas à l'époque où notre invitée du jour, Alessandra Sublet, officiait sur cette antenne. Rétrospectivement, Alessandra, c'est vrai qu'on peut le regretter. Vous auriez certainement eu de très bonnes notes, surtout dans le domaine animalier, clairement votre point fort, car non seulement la faune n'a aucun secret pour vous, mais vous avez même des théories assez intéressantes sur les chiens notamment.
Son chien est gay.
Tous les chiens, je crois.
Tous les chiens sont gays ou quoi ?
Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Là. Bah quoi, ils se reniflent tous.
Alessandra, je vous laisse. Je vous laisse entre spécialistes du monde animal, puisque notre première concurrente du jour, Anne Le Gall, va nous parler de ces albatros qui aident à lutter contre la pêche clandestine. Au préalable, Anne, comme on a la chance d'avoir en plateau une spécialiste, on peut peut-être demander à Alessandra la question qu'on se pose tous. Les albatros sont-ils des gros gays ou pas ?
Mais, ça, j'en sais rien. Enfin, votre référence, c'était Bernard et Bianca, vous, donc la ramenez pas, quoi. Allez-y, Anne, vraiment.
Voilà, c'est pas faux. Ne sait pas si les albatros se reniflent, mais en tout cas, ils ont fait partie d'une opération baptisée Sentinelle de l'océan. Elle s'est déroulée de début 2019 et les conclusions viennent de paraître et c'est digne d'un film d'espionnage. Alors, pendant 4 mois, début 2019, des albatros, 69 précisément, ont
chiffre
été...
qui n'a pas été choisi au hasard,
ont été équipés de balises, un petit appareil de 70 grammes qu'ils portaient sur le dos, et on les a laissés survoler comme ça librement un territoire de 47 millions de kilomètres carrés dans l'océan Indien, entre l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Antarctique. On rappelle que ces oiseaux vivent 80% de leur temps au-dessus de la mer et qu'ils peuvent rester en vol pendant 45 jours.
Ils peuvent
parcourir sans se reposer.
Et ils mangent pas ?
Alors ils plongent.
Ah, ils plongent.
Voilà, ils se ravitaillent comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les balises de ces oiseaux espions ont permis à une équipe du CNRS et de chercheurs de La Rochelle d'estimer qu'environ 30% des bateaux qui circulaient dans cette zone étaient des bateaux clandestins.
Ah, effectivement, je ne suis pas un spécialiste des albatros, je m'étais arrêté à Bernard et Bianca, mais comment l'albatros distingue les bateaux légaux des bateaux illégaux ? J'imagine l'albatros, il regarde, lui, il a un pavillon illégal, lui. Non, comment,
alors,
comment l'albatros
au
fait ?
Au début, il ne les distingue pas. Il voit un bateau, il le repère à 30 km à la ronde.
Ouais, parce que ça reste un oiseau, c'est un peu con, quoi. Ouais. Enfin, alors,
surtout l'albatros.
Ah oui.
En tout cas, il le repère et d'instinct, il va le suivre. Parce qu'effectivement, qui dit bateau, dit éventuellement poisson qui tombe des filets, poisson à pêcher.
Qui dit bateau, et donc... dit éventuellement poisson. Mais ce que j'aime chez vous, Anne Le Gall, c'est votre raisonnement logique. Cette chaîne de raisonnement, comme ça, c'est impressionnant. Hein.
En tout cas, l'albatros, il suit le bateau.
Ouais, il voit à bouffer.
Ouais. Ah oui. Voilà. Et avec sa petite balise qu'il a sur le dos, on peut détecter à 5 km de distance le signal radar de ce bateau. Parce que le radar, c'est intéressant, puisque le radar, on ne l'éteint pas. Et donc, ça permet aux scientifiques de repérer tous les bateaux qui circulent. Parce que normalement, l'autre façon de repérer un bateau qui circule, c'est d'utiliser son système d'identification automatique. Or, certains bateaux l'éteignent, justement, ce système, voilà, pour passer inaperçu. Et donc, grâce aux albatros, on repère tous les bateaux, y compris ceux qui cherchent à se cacher. Et il se trouve que sur les 353 bateaux qui ont été pistés par les albatros, il y en avait un tiers en moyenne qui avait éteint leur système d'identification. Donc on peut supposer qu'effectivement, ils pratiquaient une pêche illégale, pêche qui donc est nuisible à la biodiversité.
C'est alors bien, hein ? J'ai une question à laquelle je pense j'ai déjà la réponse. Pourquoi utiliser des albatros plutôt que des satellites ? Certainement parce que les albatros, c'est moins cher.
Alors, parce que c'est moins cher et aussi...
Ah, puis ça demande rien. Et mecs, ils vont pas se mettre en grève. Hein.
Mais puis ça vole plus bas, non ?
Ça vole plus bas, donc c'est comme, un drone en fait, qu'on n'aurait pas besoin d'alimenter, voilà, de recharger. Mm-hmm. Et l'opération était tellement concluante qu'un autre groupe de patrouilleurs d'albatros est sur le point de partir. Et cette initiative française a été copiée.
C'est français.
En fait, c'est français.
C'est bien.
Et voilà, c'est CNRS et une équipe de recherche de La Rochelle. Et donc, ça va être copié la nouvelle Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et Hawaï sont intéressés par cette initiative.
Tu vois tous les albatros là, qui se regroupent, ah, ils font chier les Français, là, on va devoir bosser maintenant. Et,
ah. Imitation de l'albatros oui, par notre oui, invité oui, Alessandra Soudé, assez fort. Pendant qu'Eva Rock, elle, fait mime le geste de tirer le baltrap, tirer au pigeon. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Eva, peut-être.
Ben non, mais si les pêcheurs ils nous écoutent, les pêcheurs illégaux, là, ils, ouais, j'espère
ils
qu'ils vont pas.
Les albatros, quand oui, même.
Enfin, bah, le mec, c'est un pêcheur clandestin.
Oui, s'il est dans l'illégalité, il va y aller.
La législation sur la chasse.
Poule
Anne Le Gall, vous ne pas très toujours.
Non, c'est sérieux, mais moi, j'aurais tendance à être comme vous, un peu bisounours. Mais là, effectivement.
Non, ça va trop loin. Merci beaucoup, Anne Le Gall. Je crois qu'on a fait le tour de l'albatros.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et pour conduire cette équipe est sauvage, Mathieu Noël, toujours entouré d'Eva Rock et à présent du monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Carreau. C'était vendredi 24 janvier lors de l'émission en public et en présence de la comédienne Isabelle Carré.
Nicolas Carreau, intrigué par le titre, ou plutôt le non-titre, puisqu'il s'agit d'un smiley du dernier livre de Bec Bédé, vous vous êtes penché pour nous sur l'origine des grands titres de la littérature. À quoi voit-on tout de suite qu'un titre est bon ? Moi je dis, en écoutant la vie d'Amélie Nothomb.
L'équipée sauvage, ça c'est un beau nom.
C'est gagné ! C'est bon, non ?
Oui, mais c'est pas vous qui l'avez inventé.
Non, c'est vrai. Bon. C'est vrai que le piqué, oui. Bon, d'accord, bon, on va enchaîner.
Bon, bref. Amélie Nothomb, c'est vrai d'ailleurs, j'avais pas pensé, mais elle a le sens du titre quand même. Métaphysique des tubes, par exemple, c'est super.
Effectivement, c'est magnifique.
Bref, Bec Bédé, effectivement, et il n'a pas de titre dans son nouveau roman, mais c'est juste un smiley, un homme
vraiment,
qui pleure.
C'est vraiment l'ancien de la pub, quoi. Ouais. C'est vraiment tellement
mais le exactement,
coup de pub
énorme.
Exactement,
c'est hyper marketing. Et moi, j'ai eu la maison d'édition au mois de décembre, avant que, quand on a appris que ça allait arriver. Et ça sortait en janvier, et je lui ai dit, mais il y aura bien un titre, forcément. Elle me dit, mais non, c'est un smiley, c'est tout, il n'y a pas de titre, c'est ça le titre.
On n'a pas reçu Frédéric Bédé dans cette émission, comment je ferais pour lui parler de son livre s'il n'a pas de titre? Justement, vous publiez
En fait, il y a un titre. On ne peut pas ne pas mettre de titre. Il faut être référencé à la BNF, il faut être référencé chez les libraires, bien sûr, sur Amazon pour le trouver. Si vous mettez un smiley, bon courage, vous en vendrez zéro. Et en fait, sur la page de Garde, il y a un titre, c'est L'homme qui pleure de rire. Ce qui est un bon titre d'ailleurs. Mais
c'est la traduction du smiley qui est sur la couverture.
Parce que c'est un smiley qui pleure.
Et en fait, les gens ne l'ont pas vu.
C'est ça, ce qui est formidable, c'est que c'est exactement la substance du livre de Bec Bédé. C'est ça, c'est un homme qui pleure de rire. C'est un truc à la fois très drôle et très triste.
Et visiblement, ça vous a plu, puisqu'il y a votre nom dans le monde.
Moi, j'aime beaucoup. Et c'est très très important, un titre, c'est le premier contact quand même avec un livre. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne connaissent d'un livre que son titre, même quand ils l'ont...
Alors c'est quoi votre titre préféré ?
Justement.
Allez-y Isabelle Carré, moi je veux entendre le vôtre.
Ça dit toute la substance d'un titre. Donc par exemple...
Je m'en fous de toi, il y a Isabelle Carré avec nous. Vas-y. Je veux connaître le titre préféré
d'Isabelle. Le cœur est un chasseur solitaire de Kerstin McCullers.
Oh, wow, ça c'est beau. On dirait que vous le connaissez Nicolas.
Oui. En fait, je pensais que c'était Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais elle aime les deux.
Pas mal aussi, ouais.
On va en reparler. Mais dire la substance, c'est très important, rester intriguant en même temps. Les Misérables, par exemple, ça dit bien ce qu'il y a dans le roman. Au début, ça devait s'appeler Les Misères. Et en fait, Victor Hugo s'est dit non, parce que ce qui compte dans mon roman, ce sont les personnages, les individus, les gens. Et donc, c'est devenu Les Misérables. C'est très important. Il y a des titres absolument cultes, sans arrêt imités, dans la pub, ou même pour d'autres titres, ou dans les journaux, pour les titres de journaux. Alors, il y a Voyage au bout de la nuit, évidemment, je vous en cite pêle-mêle. Hein. Les Liaisons dangereuses, La promesse de l'aube, Des souris et des hommes, Steinbeck, Les raisins de la colère. Combien de fois on a vu des articles intitulés Les raisons de la colère. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, d'Harper Lee, qui est un des livres préférés de Isabelle Carré.
Ne rougissez pas quand même.
L'attrape-cœur aussi de Salinger dans la même veine. Alors l'attrape-cœur, la traduction en fait est un peu étrange. Ça s'appelle The Catcher in the Rye en américain. Ça veut dire celui qui attrape dans le champ de seigle. Effectivement, c'est un peu compliqué.
Heureusement qu'on ne l'a pas traduit littéralement.
Souvent, ce sont des citations ou des bouts de vers de grande poésie. Par exemple, il y a l'Infini Comédie de David Foster Wallace. C'est un extrait d'un poème de Shakespeare.
Et Eric Orsena, dans son dernier livre, on a reçu ici, il a pris du Kafka.
Du Kafka. Voilà.
Briser en nous la mer gelée.
Exactement. Ça sonne bien. Et alors, souvent, les traductions, on en parlait, c'est très compliqué. Par exemple, il y a Gatsby le Magnifique, qui a été un four complet. Et Fitzgerald était persuadé, et on a les lettres qu'il écrit à son éditeur, que c'est à cause du titre, il fallait pas l'appeler The Great Gatsby, mais juste Gatsby tout court. Pour lui, ça changeait tout, et il aurait tout vendu si on n'avait pas mis The Great ou Le Magnifique. Et il y a une histoire fabuleuse de traduction, c'est Pottsville, 1280 habitants, de Jim Thompson. Alors ça, c'est la traduction littérale. Et maintenant, le roman s'appelle comme ça. Mais dans les années 70, c'était à la Série Noire et ça s'appelait 1275 âmes. Il y a 5 habitants de moins. Et pourquoi, ben parce que le traducteur s'est dit ça sonne mieux. 1275 âmes que 1280. Donc il en a enlevé 5. Et d'ailleurs, il y a eu un roman ensuite sur ce que sont devenus ces 5 habitants disparus.
Ah, c'est beau.
Et ça a été retraduit récemment et on a retrouvé les 1280 habitants. Il y a eu aussi un roman de Chandler qui, à la Série Noire, s'appelait Fais pas ta rosière. Et en fait, le titre original, c'est The Little Sister. Et donc maintenant, on a repris le titre, ça s'appelle La Petite Sœur, tout simplement, parce que Fais pas ta rosière, c'est très très marqué, Série Noire et une époque comme ça, un peu d'argot.
16h, 18h, L'Équipée Sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, L'Équipée Sauvage.
Revivez les moments phares de la semaine passée avec Mathieu Noël, Eva Rock et maintenant l'invité de ce jeudi, Anne Goscinny. Et parce que son père a créé le personnage d'Astérix, eh bien le quiz qu'il opposera à Eva Rock dans quelques instants sera consacré aux mots qui finissent par X et ISK. Mais avant, eh bien on revient sur le parcours de la romancière.
Bonjour Anne Goscinny.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes romancière, vous avez dernièrement publié le 4e tome déjà du Monde de Lucrèce que vous co-signez avec la dessinatrice Catel. Vous êtes évidemment la fille de René Goscinny. Un chiffre stratosphérique pour donner une idée de ce que représente Astérix, 500 millions d'albums vendus dans le monde. Donc votre père René Goscinny est un des auteurs français les plus lus au monde de tous les temps, tout simplement. Alors on le sait, malheureusement il est parti beaucoup trop tôt. Astérix était déjà un phénomène à l'époque, mais est-ce qu'il aurait pu imaginer que le phénomène continue comme ça de génération en génération ?
Je crois que c'est, il n'aurait pas pu imaginer quelque chose d'inimaginable.
Ouais, c'est ça.
En revanche, heureusement, il a connu de son vivant un grand succès. Mais ce qu'on sait peu, et ce qu'il est bien de rappeler pour les jeunes créateurs qui rament, c'est que le succès est venu assez tard, puisqu'Astérix s'est créé en 59. Mon père est né en 26. Et donc, il a pu savourer ce succès puisqu'il meurt en 77, mais quand même, il a beaucoup, beaucoup ramé, il a vraiment crevé la faim. Il est allé d'Argentine à New York, où à New York, vraiment, c'est compliqué d'être très pauvre. Et puis ensuite, il est revenu en France grâce au service militaire. Et puis, il est reparti à New York. Enfin, ça a été vraiment une vie de galère jusqu'à la création avec Albert Uderzo d'Astérix.
Jeudi dernier, une statue à l'effigie de votre père, René Goscinny, a été inaugurée dans le 16e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous passez devant cette sculpture de 3 mètres installée dans le quartier de votre enfance? Puisque, si j'ai bien compris, elle a été installée en face de là où il travaillait, en fait.
Cette statue est effectivement installée devant l'immeuble dans lequel on habitait avec mes parents. Et si on imagine que mon père se penche par la fenêtre et regarde, il se voit, ce qui est assez dingue et assez émouvant. Ouais. Mais je peux pas dire que je la contourne, je peux pas dire que je fais des détours pour pas la croiser, cette statue. Ouais. Enfin, il faut quand même être bien dans ses pompes et avoir le moral pour aller voir une statue comme ça qui représente son propre père, le premier homme de ma vie. Donc c'est pas toujours simple.
Il vous arrivait d'aller voir quand il écrivait, quand il concevait Astérix et tous les autres personnages?
Ah non, mais vous n'avez pas compris, je crois. C'est le truc, mon père avait un bureau qui était derrière le salon avec des persiennes en bois. Il fermait les persiennes et quand les persiennes étaient fermées...
Ça voulait dire?
Mais je pense que l'appartement aurait brûlé. Moi, je n'allais pas lui dire, hein, personnellement. Non. Un jour, en rentrant de l'école, donc j'avais moins de 9 ans, je suis allée dans son bureau avec mon pain au chocolat. Et il ne m'a pas dit bonjour, il m'a dit... Ce n'est pas l'annexe de la salle à manger, ici. Alors, je devais avoir 6-7 ans. Je n'ai pas compris annexe. J'ai pas compris. Pour moi, qu'il y avait mon prénom dans annexe, je me suis dit, ça sent pas bon.
Je repars
dans la salle à manger, ou éventuellement à la cuisine.
Et aujourd'hui, vous avez repris le flambeau, si j'ose dire, puisque vous publiez Le Monde de Lucrèce, ce personnage que vous avez créé. Vous ne vous imaginez pas un autre destin que celui-ci?
Ah si, parce que d'abord, avant d'écrire cette série que j'ai créée avec Catel, qui a beaucoup beaucoup de talent, j'ai écrit 7-8 romans chez Grasset, des romans de un peu d'introspection, pas très gays, qui surfent entre la psychanalyse et la névrose ou la psychose. Et puis un jour, Catel m'a dit « Mais enfin, t'es beaucoup plus drôle que les romans que tu publies, qui sont quand même hyper sinistres. Pourquoi tu te lancerais pas ?» Et j'ai dit... J'ai pas dit banco tout de suite, mais je l'ai dit assez vite.
Et vous avez eu raison.
Et là, on publie le 5e volume en mai.
Europe 1, 16h, 18h, L'Équipe.
Oui les amis, ma chère Anne Goscinny, c'est l'heure du quiz qui oppose chaque jour l'invité à Eva Rock, une joute intellectuelle de haut niveau où Eva tente souvent de tricher, mais quand même pas aussi grossièrement que notre invité d'hier, Alessandra Sublet, qui a une technique assez formidable. Écoutez plutôt.
Mais oui, attends, vas-y, dis-le-moi parce que je l'ai.
Dis-le-moi parce que je l'ai. Alors celle-ci, j'en ai entendu des conneries. Alors. Bon, alors Anne Goscinny vous prévient déjà qu'Eva est pas fortiche. N'essayez pas en plus de gruger. Comme dans Astérix aux Jeux Olympiques, pour donner le top départ, je citerai le nom d'un célèbre dieu grec. Pan.
Oh non.
Bah, c'est une vanne de Goscinny.
Ah
alors,
oui, non, mais d'accord. Bon. Mais oui.
Anne Goscinny, pour notre quiz quotidien qui vous oppose à Eva, on va jouer sur les mots qui se terminent en isque ou en x. Hommage finaux à Astérix et Obélix. Vous jouez chacune votre tour. Une bonne réponse donne un point. C'est parti. Eva.
Oui.
Obélix est le seul personnage de la BD qui ne tire pas son nom d'une référence à un autre mot. Par exemple, Astérix, c'est rapport à un astérisque. Mais Obélix a rien. Vrai ou faux?
Bah si.
Bah oui.
Un obélisque.
Faux.
C'est faux.
C'est une référence à l'obèle qui est la barre horizontale de ces deux petits points qui forment le signe de la division. C'est un hommage au grand-père de René Goscinny qui était imprimeur pour des journaux yiddish. Est-ce que cette information est validée par Anne Goscinny?
Absolument, tout à fait.
Ah, parce oui. que moi, en la lisant, j'y ai pas cru. Je croyais que c'était l'obélisque aussi. Enfin,
Non, effectivement, c'est un signe typographique. Mon père vient d'une grande famille d'imprimeurs et d'éditeurs. Et d'ailleurs, ils ont écrit un dictionnaire hébreu-yiddish qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qu'ils ont terminé d'écrire en 1942. Donc, vraiment... Et mon père était très très fier de ses origines d'imprimeur.
Et donc c'était un clin d'œil.
Et c'était un clin d'œil.
Ça, je pense que personne ne le sait.
L'astérisque et l'obèle. Enfin,
franchement, moi, je le savais pas.
Pas du tout. Astérisque, c'est aussi. Mon père disait que c'était aussi parce qu'il fallait un prénom qui commençait par A pour être au tout début des dictionnaires. Si un jour.
Et donc il avait pensé un petit peu quand même que ça allait devenir.
Oui, forcément, quand on écrit, on pense forcément reconnaissance seul dans sa solitude devant son clavier.
Mais par exemple, à Is No Good, il n'y avait pas pensé.
Non, mais il a bien fait.
Anne Goscinny, jouons sur le mot suffixe qui est, comme chacun sait, une suite de lettres à la fin d'un mot qui en modifie le sens. Exemple, claustrophobe qui a peur des endroits confinés. Justement, il existe la peur d'avoir peur, la phobophobie. Vrai ou faux, Anne?
Ça pourrait être vrai.
Et c'est vrai. Il existe beaucoup de phobies. Il existe plein de phobies, Eva. Il y a même des phobies qui existent officiellement car elles ont été inventées. Un dessinateur américain, Gary Larson, a publié une BD, The Far Side, où son héros souffrait d'anatidaephobie.
Ah, ça, c'était quoi?
La peur d'être observé par un canard.
Mais non.
Mais si. Mais pourquoi pas? On a le droit à avoir peur de tout et n'importe quoi.
Non, mais la phobophobie, vous m'ouvrez des horizons parce que je trouvais que j'avais déjà pas mal de névroses et tout. Et tout
elle
d'un coup, je m'en rajoute une et qui vient synthétiser tout le monde. Et finalement, merci Mathieu.
Merci l'équipe et Sauvage. Merci. Eva Rock, Anne Goscinny, jouons ensemble sur le risque. Selon une étude suisse, donc très sérieuse, portant sur 2 millions de personnes, on a 14% de chances de. Quoi? Trois propositions. 14% de chances de mourir dans la ville ou le village où on est né, de mourir le jour de son anniversaire ou de mourir 20 ans après son conjoint.
Ah, moi je crois que je dirais jour de l'anniversaire.
Jour de l'anniversaire pour Eva, d'après vous, Anne?
Oui, bah en fait, c'est une émission qui vous donne le moral.
On est là pour ça. Hein.
Moi, j'ai envie de dire 20 ans après son conjoint. Comme ça me laisse 20 ans de rab et pour aller voir autre chose. Voilà, why not?
On l'embrasse. Hein. Et non, c'était une bonne piste, mais non. On a 14% de chance de mourir le jour de son anniversaire. Mais c'est vrai que ce jour-là, on a une conduite à risque, hein, souvent avec de l'alcool, des comportements dangereux.
Ah, c'est vrai, c'est ça? C'est lié à ça?
Et oui, et notez que d'une part, chez la femme, le chiffre tombe à 13,6% et que d'autre part, Dick Rivers est mort. Est né un 24 avril. Oui, Jean-Philippe.
Moi, je voudrais savoir qui sont les gens qui prennent le temps de se dire un jour, tiens, on va calculer la probabilité de mourir le jour de son anniversaire.
Ah oui, c'est vrai, c'est improbable.
Des chercheurs suisses.
Mais c'est
n'insultez jamais les Suisses. Astérix chez les Helvètes, un des meilleurs Astérix. Parce que non, mais il est vraiment fabuleux celui-là. C'est celui que j'aime le plus relire. Quand mon fils me dit, on lit Astérix, je prends les Helvètes.
Parce que vous avez
rien à voir avec mes origines suisses. Eva Rock, jouons sur le mot remix. Voici un remix de deux chansons. À vous de les trouver.
Alors, il y a Rocky 4 et Adèle. C'est ça?
Non,
enfin,
c'est
Rocky 3. Enfin, je...
Ah, c'est Rocky... raté! C'était Rocky 3! Oh là 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 là! Caramba! Oh, c'est dommage! Vous étiez si près d'une victoire. Et non! C'était Adèle, Rolling in the Deep et Eye of the Tiger de Rocky 3. Anne Goscinny.
Je sens que je vais être nulle.
Il n'y a pas de raison. C'est possible, mais plus qu'elle. Vous aussi, vous jouez sur le mot remix. Même principe, c'est parti.
Ah oui.
Je vois Jean-Philippe qui essaie de vous souffler. Est-ce que vous identifiez les deux chansons qui sont mixées là?
Ouais, alors Jean-Philippe a gentiment essayé de me souffler, mais alors moi je vais vous dire, j'ai trois passions dans la vie, quatre on va dire, Jean Ferrat, Anne Sylvestre, Georges Brassens et les frères Jacques.
Là, vous ne l'avez
alors,
pas reconnu.
Là, voilà, je ne sais même pas de quoi il s'agit.
Alors il y a là, Michael alors, Jackson.
Est-ce que Jean-Philippe peut répondre pour vous?
Ouais. Oui, c'est la batterie de Billie Jean de Michael Jackson et c'est les paroles de Cocaïne d'Eric Clapton.
Eh ben je vais faire mon Alessandra Sublet, oui, je l'avais.
Et donc, qui remporte le quiz? Eh bien c'est Anne Goscinny puisqu'elle l'avait. Elle l'a dit, donc il faut la croire, c'est l'invité. Alors Anne Goscinny, certaines expressions inventées par votre père sont devenues courantes. Comme tomber dans la marmite de potions magiques ou encore être calife à la place du calife. Ça, c'est ben, tout ah, le monde oui. l'emploie. Ça vous fait quoi quand vous entendez ces expressions? Ça vous fait un petit pincement au cœur?
D'abord, c'est quasiment quotidien, soit dans la presse, soit à la radio, soit à la télé. Il est tombé dedans quand il était petit. Il n'a pas trouvé la potion magique. Il a voulu être calife à la place du calife. Encore la semaine dernière, quand on a inauguré la statue de mon père, il y avait Anne Hidalgo qui a parlé d'Isno Good, qui veut être calife à la place du calife. Enfin bon, voilà tout ça. Et je dois dire que c'est un peu comme si mon père n'était pas tout à fait mort et continuait à me parler avec ses expressions. On parle le René Goscinny et ça, c'est très, très émouvant. Il a inventé des expressions passées aujourd'hui dans le domaine public, dans le langage public.
Si on devait trouver, ce qui n'est pas forcément très malin d'ailleurs, mais c'est toujours marrant, des héritiers à Goscinny, est-ce que Alain Chabat, Alexandre Astier sont des noms qui... ça s'inscrit dans une filiation?
Oh, je dirais que Alexandre Astier a beaucoup, beaucoup de talent, probablement même du génie. Alain Chabat a dans mon cœur et au niveau de la filiation de mon père un statut très particulier, puisque quand j'ai lu le script d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, j'ai appelé Alain et je lui ai demandé comment ça se passe, tu fais tourner les tables, c'est mon père qui a écrit le scénario, parce que c'est vraiment, j'avais vraiment l'impression que c'était mon père. Transgresser de façon fertile, c'est-à-dire pour la bonne cause, et c'était mon père remis au goût du jour. Et Alain, incontestablement, est l'héritier spirituel de mon père. Vraiment, il y en a un, c'est lui.
Ouais, on est d'accord, hein, Astérix Mission Cléopâtre,
oui,
ça reste le plus merveilleux des Astérix au cinéma.
Et d'ailleurs, j'ai offert à Alain, le jour de la première, les boutons de manchette que mon père portait le jour où il est mort pour lui dire, voilà. Alors, il n'avait pas de chemise ce jour-là pour mettre des boutons de manchette, c'était un peu la panique. Mais voilà, c'était vraiment une façon pour moi de lui dire de sa part merci.
Eh bien les amis, c'est une chose de chasser le sanglier à main nue, c'en est une autre que de battre Eva Rock sur un quiz de Culture G. On peut dire encore bravo, Anne Goscinny.
16h, 18h, l'équipe sauvage sur Europe 1.
L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Et oui, nous sommes toujours avec Mathieu Noël, même le week-end, pour une compilation de la semaine passée. Et mardi, il accueillait le comédien et aussi écrivain Samuel Le Bihan. Côté chronique, Mathieu Charrier évoquait le rapport Racine, très attendu par les auteurs de BD.
Mathieu, vous vous apprêtez à partir au Festival d'Angoulême avec sous le bras ce fameux rapport Racine que les auteurs de bande dessinée attendaient un peu comme l'Arlésienne. Vous allez nous dire ce qu'il y a dedans, mais d'abord j'aimerais que vous nous confirmiez le tableau que nous avait fait Catherine Meurice du Festival d'Angoulême la semaine dernière à ce micro, alors que j'osais une comparaison avec le Festival de Cannes. Est-ce que le Festival d'Angoulême, moi j'ai jamais eu la chance d'y aller, c'est un peu comme le Festival de Cannes, c'est un peu des soirées à gogo, du champagne qui coule à flot, ou c'est une autre ambiance?
C'est plutôt ambiance gastro et grippe, c'est un chouette festival.
Ah ouais, ça a l'air génial. Vous avez votre Imodium, vous partez quand?
C'est pas totalement faux ce qu'elle dit. Mais non, mais vous savez, Angoulême c'est des bulles, vous savez, des sortes de grands chapiteaux à travers toute la ville, surchauffés, souvent il y a même de la condensation, donc vous avez...
Ah oui, donc c'est propice au développement des germes.
Ah, c'est un peu propice, mais c'est aussi ce qui fait le charme. C'est
tout... une bonne gastro, c'est
quand même une petite ville de 50 ou 60 000 habitants qui accueillent 200 000 personnes sur 4 jours. Donc c'est vraiment, la ville se transforme.
On vomit, mais on vomit tous ensemble. Et c'est bien là l'essentiel et c'est la magie d'Angoulême. Effectivement. Alors ce rapport, Mathieu Charrier.
Oui, alors ce rapport. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, les auteurs de bande dessinée n'arrivent pas à vivre de leur art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus d'un auteur sur deux qui gagne moins que le SMIC. Et plus d'un auteur sur trois qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire, moi hier, j'ai discuté avec un auteur, il me disait qu'il était payé à la page dessinée. C'est un dessinateur, il s'appelle Guilhem. Et vous savez combien il gagne pour une page de bande dessinée? Ça lui prend à peu près 15 jours de dessiner une page de bande dessinée.
Une page
200 euros
non, voilà, bah 300 euros.
Ah oui, 300 euros
brut,
pour 15 jours.
Derrière, il doit payer ses charges, etc. Donc il en fait deux par...
on peut pas vraiment
il
vivre.
En fait deux par mois, on ne peut pas vraiment en vivre.
Mais c'est dû à quoi alors, cette faible rémunération?
Il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus de 5000 bandes dessinées nouvelles qui sortent chaque année en France. Alors, c'est formidable, parce qu'évidemment, c'est une proposition artistique qui est dingue. C'est la possibilité pour beaucoup d'auteurs d'être édités, donc c'est génial. C'est une stratégie au départ des éditeurs qui se sont dit, plus on va créer d'offres, plus on va proposer de titres au public, plus ils vont en acheter. Mais évidemment, vous avez aussi une dilution des ventes. C'est-à-dire qu'à une époque où un album en moyenne se vendait 5, 6, 7, à 7 000 exemplaires, aujourd'hui, vous êtes plutôt autour de 1 000, 1 500, 2 000 exemplaires. Donc ça ne suffit pas pour rembourser, vous savez, les fameux avaloirs. Et donc, les auteurs, ils touchent une avance sur leur album, et point final. Alors là, on parle des auteurs, de la majorité des auteurs. On ne parle pas des quelques auteurs stars, évidemment, qui arrivent à très bien vivre de la bande dessinée, mais la majorité, aujourd'hui, n'arrive pas à en vivre. Ensuite, on demande aux auteurs de faire de plus en plus de choses, de faire de la promotion, de faire des séances de dédicaces. À Angoulême, on en parlait, vous avez des centaines d'auteurs qui dédicacent en temps réel, et pour ça, ils ne sont pas payés.
Il n'y avait pas d'ailleurs justement une,
bien sûr, ils demandent,
une proposition que les séances de dédicaces soient payantes.
Mais ils demandent, ils disent, attendez, nous on nous demande de dessiner pendant des heures, oui, l'éditeur vend des... parce que pour pouvoir faire dédicacer votre album, il faut que vous l'ayez acheté sur le salon, donc l'éditeur, lui, il vend des titres, et puis eux, ils sont derrière leur petite table à dédicacer gratuitement. Donc ils disent, à un moment, ça commence à bien faire, donc beaucoup sont obligés de travailler à côté, dans l'illustration, dans la publicité, etc.
Alors, ils préconisent quoi ce rapport Racine ?
Alors, il est très très technique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a 23 mesures, mais on va dire qu'il y a trois grands axes. Déjà, le premier, c'est de définir un statut d'auteur clair, ce qui permettrait évidemment derrière de constituer un corps professionnel. Aujourd'hui, les auteurs n'ont pas de statut, parfois même ils sont auto-entrepreneurs, vous savez, donc ils sont pas...
Oui, et donc ça veut dire que c'est pas simplement pour les auteurs de bande dessinée, ce serait aussi pour les auteurs de scénarios,
exactement,
etc.
Exactement. D'accord. Deuxième groupe de mesures, ce serait de grâce à ça, d'organiser des élections professionnelles dans chaque secteur, dans le dessin, dans la couleur, etc. Ce qui permettrait évidemment de mieux défendre.
Avoir une guilde des auteurs, comme aux États-Unis, où ils sont très forts.
En plus, vous avez déjà un syndicat des éditeurs, donc eux sont déjà bien structurés, défendent leurs intérêts. Les auteurs, c'est pas le cas. Et puis il y a aussi la création d'un conseil national des auteurs, des artistes-auteurs, où là, pour le coup, tout le monde siégerait, les éditeurs, les auteurs, etc. Et on discuterait tous ensemble pour définir peut-être un prix de page minimum, peut-être... Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est, vous savez, on a tous connu les albums classiques, 46 pages, là, les Tintins, Astérix, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on en discutait il y a quelques minutes avec Samuel Le Bihan.
En antenne, oui.
Non, même à l'antenne.
Ah, même à l'antenne, oui. Ah, bah, oui. Oh, mais vous savez, moi, je ne fais aucune distinction, c'est ma spécificité. Pour moi, je ne vois pas de frontière entre les deux.
C'est que la bande dessinée aujourd'hui, elle est sous des formes diverses. Et c'est vrai que le roman graphique, par exemple, vous avez des BD, j'en lisais encore une hier soir, elle faisait 300 pages. Donc travailler sur un album de 300 pages, ça prend évidemment plus de temps que de sur un album de 46 pages. Donc voilà, ils espèrent être entendus, ils espèrent qu'Emmanuel Macron va décider des mesures, d'autant qu'on est, vous le savez, on en parlait avec Catherine Meurice et Jules, dans l'année de la bande dessinée qui a été décidée par le ministère. Donc tout le monde se dit, si c'est pas cette année qu'on prend des mesures et qu'on essaie d'aider les auteurs, ce sera jamais.
Samuel Le Bihan, vous avez réussi en tant qu'acteur, mais vous auriez pu aussi être un auteur de bande dessinée ou de roman d'art graphique, puisque vous rêviez de faire les Beaux-Arts, non, dans votre jeunesse.
Oui, je dessinais énormément, j'étais pas trop mauvais. Maintenant, la bande dessinée, c'est un autre exercice. Mais aujourd'hui, justement, c'est tellement créatif que ça touche vraiment le domaine artistique dans le sens large, aussi bien visuel, au niveau de l'écriture. Enfin, il y a espèce des échos. Justement, moi, j'étais membre du jury au Festival d'Angoulême et j'avais été surpris de la force, de la créativité, de la diversité de la proposition et de l'audace aussi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock, Olivier Pouls pour sa recette de dernière minute facile et bon marché, c'est dans un instant, sans oublier l'invité d'honneur, Daniel Pénac, invité à venir nous parler de son livre La loi du rêveur, c'était lundi sur Europe 1.
Aujourd'hui, un grand nom de la littérature française, il est tout simplement un de nos écrivains les plus célèbres, Eva, je vous le donne en mille.
Molière.
Presque, Daniel Pénac. Bonjour Daniel Pénac.
Bonjour.
La loi du rêveur, c'est le titre de votre nouveau roman, un roman dont vous n'auriez jamais eu l'idée si une ampoule n'avait pas explosé. Est-ce que ça c'est vrai? Parce qu'il y a beaucoup dans le roman, il y a des fausses pistes, il y a des rêves, il y a peut-être aussi des mensonges. Est-ce que le coup de l'ampoule c'est vrai? C'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans la vie?
Oui, oui, oui. Ah oh, bon, oui, pas mal d'ampoules ont sauté dans ma vie. Oui.
Ah, non. Oui. Je sens qu'il est parti pour nous arnaquer.
Ça fait un bruit précis.
Ensemble, on va évoquer votre dernier roman, La loi du rêveur. Simplement, une petite question d'actu avant de démarrer sur la littérature. Les profs ont encore manifesté vendredi. Vous avez été longtemps prof. Est-ce que vous êtes solidaire de ce mouvement? Est-ce que vous les comprenez, vous qui avez vécu le système éducatif de l'intérieur?
Les raisons précises de cette manif, je ne les connais pas. J'arrive d'Italie, pour tout vous dire.
C'est vrai.
Mais par principe, j'ai plutôt tendance à les soutenir parce qu'ils sont très mal payés.
Il faut le rappeler. Contrairement à d'autres pays, d'ailleurs, par exemple.
Très mal payés, beaucoup moins payés que dans quantité d'autres pays. Et c'est assez embêtant parce que les meilleurs, quand ils en ont vraiment marre, décident d'aller se faire mieux payer ailleurs.
Dans le
privé. C'est très mauvais pour l'éducation nationale et pour les enfants. Donc, je suis solidaire avec ces manifs.
Daniel Pénac, solidaire. Alors moi, je me suis régalé ce week-end parce que j'ai lu votre livre, La loi du rêveur. En revanche,
ça m'a valu quelques hontes avec mes amis avec qui je passais un week-end, parce que j'ai pas su démêler le vrai du faux dans le livre. Alors j'avais bien compris assez vite que, n'est-ce pas, il y avait une dimension de rêve et que vous nous meniez parfois en bateau. Mais comment vous avez eu l'idée de faire un livre sur le coup du rêve, où vous faites le coup du rêve, alors que vous-même, vous l'empêchiez, vous interdisiez ce procédé à vos élèves?
Je l'interdisais, oui et non. C'est-à-dire que à mes élèves en général, j'étais pensionnaire avec mes élèves, et j'ai toujours tenu, moi, le journal de mes rêves, et je leur ai appris à cueillir les leurs. Ce qui, mine de rien, était en douce, comme ça, un exercice d'écriture très intéressant. Tous les matins, et on se racontait les rêves les plus avouables, comme ça, on se les racontait. Et donc, j'aurais appris à saisir, à cueillir leurs rêves matutinaux. Mais je leur interdisais la solution du rêve dans les exercices, dans les rédacs. Parce qu'ils se seraient fait taper sur les doigts au BEPC. Sinon, il y avait un moment, il fallait que l'exercice soit un peu académique. Donc je leur disais, c'est pas un rêve, hein, ne sortez pas par cette porte-là. Je suis planqué derrière avec un gros bâton. C'est le réel. Coltinez-vous le réel, il y a de quoi faire avec le réel.
Il nous donne envie de nous reconnecter avec nos rêves dans son dernier roman. Daniel Pennac est notre invité cet après-midi.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Daniel Pennac, on parle de ce livre, ce dernier roman, La loi du rêveur. Quels sont les héros de roman qui vous ont accompagné pendant votre enfance? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a une figure particulièrement qui vous a...
C'est les Trois Mousquetaires. Ah. C'est Dumas, bien sûr. Parce que je les lisais en cachette.
Pourquoi en cachette?
Ben parce que c'est dans interdit. Les pensions où j'étais, on n'avait pas le droit de lire pendant l'étude. Et ça, c'est les gosses aujourd'hui qui disent « Ah, c'est pas vrai, c'était génial, on n'avait pas le droit de lire. Enfin, » Les pions nous piquaient nos bouquins et ne nous les rendaient pas. Alors on les lisait en cachette, avec la lampe poche au lit. Et donc je voyais D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis donner rendez-vous aux mousquetaires du cardinal pour aller se friter dans une auberge à une lieue de là. Et puis je m'endormais. C'était la nuit avec l'homme. Et le lendemain à l'étude, comme j'avais envie de lire, je pouvais pas lire mon épique et mon bouquin. Donc j'écrivais la suite de Dumas. J'ai le rendez-vous entre les mousquetaires du roi et ceux du cardinal. Et le soir suivant, je retournais au pieu, je rouvrais le bouquin et je comparais.
Oh, et
oui, ah ben c'était un peu mieux Dumas.
Nous sommes avec Daniel Pennac qui nous présente son livre « La loi du rêveur », un livre dans lequel il est beaucoup question de Federico Fellini. Il y a une anecdote sur Fellini que vous racontez dans le livre, sur sa manière de diriger les acteurs, parfois pas professionnels. Il recrutait plein de gens comme ça qui n'étaient pas forcément des comédiens professionnels. Et parfois, quand il ne savait pas trop s'exprimer à l'écran, il leur demandait de dire des chiffres, de compter en fait à voix haute.
Oui.
Et ensuite, en post-production, comme on dit, il mettait les bonnes... Enfin, il y avait des acteurs qui donnaient le dialogue. C'est vrai,
oui,
ça?
Oui, bien sûr. Quand les acteurs oubliaient leur texte ou avaient même une voix qui ne lui plaisait pas, ils disaient mais ça n'importe pas, ma tout compte, tout compte. Mais je compte quoi? Mais numéri, tu comptes des chiffres. Bah si, mais amorosamente. Alors fille se mettait à compter sur le ton séducteur, etc. Et c'était des comédiens, très souvent d'ailleurs, c'était des images de ses rêves. C'est ça qui est surtout très original.
Expliquez-nous ça, parce que
ça paraît. Il rêvait. Et dans ses rêves, il y avait des figures qui apparaissaient. Ensuite, il n'avait de cesse que de les retrouver dans la réalité.
Il passait une annonce.
Et alors, il passait une annonce dans le journal avant de tourner. Et cette annonce disait « Federico Fellini est prêt à recevoir tous ceux qui veulent le voir ». Et se précipiter au studio 5 de Cinecittà, tous les Romains et les Romaines qui, de leur côté, voulaient devenir une image fellinienne. Alors, ils débarquaient. Alors, c'était les grosses dames plantureuses, les ecclésiastiques ralentis, les ados insupportables.
Ça faisait faire du monde.
Ça faisait un monde fou. Et ils leur faisaient passer des petits tests comme ça. Et en effet, ils les faisaient compter. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement les films de Fellini, particulièrement, par exemple, j'ai revu Rome avant-hier, Roma, vous vous apercevez que le mouvement des bouches n'a rigoureusement rien à voir avec ce qui se prononce. Il ne s'emmerdait, mais pas du tout avec la passion, mais pas du tout. C'en est même une marque du film. Il y a quelqu'un qui parle ailleurs, dans un studio, qui n'est pas le comédien en question, qui est quelqu'un d'autre, et qui dit ce que Fellini a mûrement réfléchi de lui faire dire entre le moment où il a tourné le film et le moment de l'enregistrement. ça se voit.
C'est un livre qui est merveilleux, hein, ouais. Très beau roman, et en plus qui vous donne envie de revoir Fellini. Fellini, ou de les voir tout simplement, ouais. Dans mon cas, beaucoup que je n'ai pas vu, notamment Amarcord, que je n'ai pas vu et que je vais voir parce que vous en parlez beaucoup dans le livre.
Ça, vous avez du bonheur devant vous.
C'est ce que je me suis dit. Alors Daniel Pennac, vous l'avez compris, L'équipé sauvage, c'est une certaine forme de légèreté, mais c'est aussi des valeurs, au premier rang desquelles le respect du monde animal. Or, parmi les grands défenseurs de la cause animale, il y a certes Aymeric Caron, mais il y a surtout Olivier Pouls, un épicurien qui a pour les bêtes une tendresse infinie, surtout si ces bêtes sont elles-mêmes tendres. Écoutez sa réaction lorsque vendredi j'essayais de le sensibiliser au destin tragique d'un petit veau.
Ben, moi je vous fais de l'autre choix de veau. Je trouve que ça c'est une viande qui se prête particulièrement bien.
Vous avez déjà vu un veau?
Oui, ouais, ben, oui, j'en ai
déjà. Ça vous attendrait pas?
Ah, ma foi, quand il est découpé en petits morceaux.
Oui, bon, d'accord, bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour Daniel Pennac, dans mes bras mon ami, parce que cette ode au vin que vous venez de chanter, c'est un peu la mienne. Hein. Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien, par où que ça passe, j'aurais pas dit mieux.
La prochaine fois, vous me le chanterez, Olivier, hein, parce qu'il ne faut pas juste les paroles. Alors Olivier, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je crois, j'étais en Belgique ce week-end, pour tout dire à nos auditeurs, je vous ai envoyé une photo de moule, et vous m'avez répondu... Ça tombe bien.
Eh ben oui, ça tombe bien parce que vous m'avez donné l'idée de ma chronique finalement. C'était toujours ça de prix et de gagner.
Ah,
et je me suis dit, bon sang, mais que fait-il chez moi? Et en plus, il est en train de manger des moules frites, le saligo. Donc ça m'a donné furieusement envie d'en faire, d'en manger et de vous donner la recette de la traditionnelle moule frite à la belge. Vous savez, ce plat iconique.
Et c'est facile à faire ça, Olivier?
Évidemment, c'est
les moules, c'est
très facile.
Facile
à faire. Vous allez même, mon cher Mathieu, pouvoir les faire vous-même chez vous. Et une fois encore, c'est pratiquement inratable. Alors il faut savoir que le concept d'associer la moule et la frite, c'est bel et bien un concept belge. Ça remonterait à 1875 à Liège, où une famille allemande, là pour le coup d'origine, la famille Fritz, avait ouvert une cabane à frites, une des premières cabanes à frites de Belgique, et ils ont eu l'idée d'y associer les moules. Alors les moules, évidemment, ça c'est un produit qui se mange depuis la nuit des temps, mais l'association des deux viendrait donc bel et bien de la Belgique. Alors après, c'est aussi devenu le symbole, évidemment, de la ville de Lille, avec la fameuse braderie au cours de laquelle se vendent plus de 500 tonnes de moules frites.
Alors Alain Decaux, merci, maintenant j'aimerais entendre Maïté, c'est-à-dire la recette.
Alors Maïté, elle va vous dire qu'il va falloir prendre des moules. Il va falloir prendre environ un litre de moules.
Et là, vous avez
déjà
bu la bière qui va avec les moules, j'ai l'impression.
Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Mais moi, les moules, je les prépare au vin blanc. Alors, je les accompagne de bière, effectivement, d'accord. Table, mais je les prépare au vin blanc. Donc, on va dire un litre de moules par personne. Alors, les ingrédients qu'il vous faut ensuite, c'est très très simple. Il vous faut un oignon, du céleri, c'est très important, la branche de céleri. Du persil plat, un peu de beurre et un peu de vin blanc.
Ensuite,
c'est aussi simple que ça, vous prenez une belle casserole dont vous détenez le couvercle, parce qu'il va falloir la couvrir, donc c'est très important. Vous allez faire revenir tous vos légumes, mais très rapidement avec le beurre, vous mouillez avec le vin blanc. Dès qu'il y a une ébullition et que le vin blanc commence à évaporer un tout petit peu l'alcool, vous mettez les moules à l'intérieur, vous couvrez, et puis vous laissez cuire une petite dizaine de minutes, en fait, pour savoir si le plat est prêt. Ah bah oui, pour savoir si le plat est prêt, bah vous regardez et vous voyez que toutes les moules se sont comme par magie ouvertes.
Ah. Et dès que les moules non ouvertes ne doivent pas être mangées.
Alors les
moules
non ouvertes
qui restent fermées.
Non, mais on peut les manger, mais là pour le coup, c'est très difficile d'ouvrir la coquille. Mais si vous avez bien cuit, on va dire que 95% de vos moules se sont ouvertes. Il faut surtout pas après laisser cuire trop longtemps, parce que ce qui est bon dans la moule, c'est qu'elle doit rester évidemment moelleuse, un peu juteuse, et donc il faut pas la cuire trop longtemps. Et puis surtout, très important, c'est que vous devez garder ce jus, ce délicieux jus de moule. Alors soit vous pouvez le boire comme ça à la fin du repas, mais vous pouvez aussi le garder pour faire d'autres préparations. Par exemple, un petit risotto avec ce jus de moule, ça va être absolument délicieux.
Ça, c'est pas bête du tout, Olivier Pouls. Comme quoi, vous êtes vraiment belge.
Ben oui, exactement.
Vous ne m'avez pas menti.
Et votre séjour en Belgique,
merci.
Sinon, c'était sympa?
Oui. Eh bien, à part que vous n'étiez pas là pour me guider, c'était un excellent séjour. Nous avons vu des très belles choses et nous avons été accueillis très chaleureusement par les Bruxellois.
Eh bien, vive le roi, vive la Belgique.
Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
16h, 18h,
l'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
Avec toujours Mathieu Noël, même le week-end, sa complice Eva Rock est à présent l'un de nos correspondants en région et en présence de l'invité de ce mardi, c'était Samuel Le Bihan, dont le roman Un bonheur que je ne souhaite à personne vient de sortir en livre de poche.
Vous écoutez l'équipée sauvage avec Samuel Le Bihan, 2 heures de rire et de découverte au plus proche de vous, y compris en région, direction l'océan aujourd'hui. Un océan qui n'a aucun secret pour Eva Rock, la sirène de la baie des Anges, comme elle l'avait prouvé au grand plongeur, Laurent Balesta.
Est-ce que je dis une bêtise si tu veux que je la dise quand même ? Je la dis bien dans le micro, comme ça tu la récupéreras. Les mérous, ont leur, le nombre de tâches qu'ils ont, ça constitue leur pièce d'identité en fait, c'est ça c'est...
Alors effectivement, tu peux la garder.
Lui
alors,
soyez honnête.
Non, pas de débrief, on s'en fout.
Soyez honnête.
Lui, comment ça, soyez honnête ? C'était faux ?
Non, il a dit que c'était vrai après.
C'était pas ce que vous aviez dit. Lui, il connaît bien l'océan. On retrouve tout de suite notre correspondant dans le sud-ouest. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Eva et bonjour aux mérous.
On les embrasse tous. Ici, dans ce studio, nous réunissons quotidiennement des phares de la pensée, on peut le dire. Mais il faut bien reconnaître que ça n'aide pas toujours à la navigation.
Pas toujours.
Surtout en comparaison du roi des phares, le Versailles de la mer. Unique au monde, pas un lampion qui jette une lumière crue sur votre gueule de bois du samedi soir, Eva. Le phare de Cordouan, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, est en lice pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et moi aussi.
Ah, ça, je savais pas, ça c'est un scoop. Pour le phare de Cordouan, nous saurons en juillet prochain, et donc peut-être aussi pour Eva, s'il décroche cette inscription prestigieuse au patrimoine mondial. Le phare de Cordouan, c'est magnifique, hein, l'appartement du roi, la chapelle. Alors, il y a une étude internationale pendant 1 an et demi, et au bout, croisons les doigts, espérons cette reconnaissance pour ce monument exceptionnel. Pascal Gault, conseillère départementale, préside Gironde Tourisme.
C'est le seul phare au monde de pleine mer encore habité par des gardiens. C'est le seul phare royal au monde, puisque c'est Louis XIII et Louis XIV qui en ont décidé la construction. La lentille de Fresnay a été inventée également dans ce phare. C'est un phare qui est ouvert à la visite, du printemps jusqu'à l'automne. C'est un phare où on reçoit entre 20 et 23 000 visiteurs, avec les contraintes d'accessibilité, hein, parce que les marées, la météo, etc. Mais c'est un phare qui passionne pour 2 axes, à la fois la vie des gardiens, et c'est assez magique d'imaginer des hommes du 1er janvier au 31 décembre sur le phare, et puis toute cette originalité technique et patrimoniale de Cordouan, donc c'est un phare qui suscite l'intérêt.
Et il sera encore plus beau ce phare de Cordouan après les travaux de restauration qui sont en cours, des millions d'euros, des ouvriers et des matériaux qu'il faut transporter en hélicoptère. Je vous recommande vraiment la visite, c'est vrai notamment pour Samuel Le Bihan qui aime la mer, qui navigue, qui sait notamment barrer un voilier d'après ce que je sais. Et puis au retour du phare de Cordouan, vous traverserez le Médoc, vous suivrez la route des châteaux, vous vous arrêterez dans une propriété.
Ça intéresse plus Eva.
Oui, je le sens bien, je le sens bien.
La partie bateau, le fait avec Samuel, et puis ensuite la partie Pinard, apparemment elle sera plutôt en rendez-vous là.
Plus calé que sur les mérous.
Oui,
et puis alors là,
vous
pourrez visiter les chais donc, et vous offrir une petite dégustation. C'est une dégustation, Eva, hein, c'est pas la fête de la bière. Et à la fin de la journée, eh bien, je pense qu'après avoir vu autant de merveilles, le phare, les châteaux, bah, vous retrouverez foi en l'humanité, c'est clair.
Vous connaissez ce phare, Samuel Le Bihan ? Vous l'avez déjà visité ?
Oui, non, pas visité, mais je l'ai déjà vu.
Vous l'avez déjà vu. Il faudra organiser une. On devrait aller le visiter. Moi, ça m'a fait rêver. Merci
beaucoup.
Une émission
depuis le phare de Cordouan. Ah oui.
Une émission tout en haut du phare.
Le jour où ils sont inscrits au patrimoine.
Ouais, Mathieu Charrier, il y a 300 et quelques marches. Je pense qu'on va en perdre quelques-uns en route. Moi,
mais Mathieu Charrier est absolument fit.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Suivez-nous sur Europe1.fr.
Malgré les petits fours et tout ça dans les salles. Oui, c'est vrai, il est fit.
Merci beaucoup Stéphane Place, notre correspondant dans le Sud-Ouest.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël et Eva Rock, mais aussi Ève Roger qui nous parlera du baiser, l'art et la science du baiser. Et puis dans l'heure qui vient, Anis Mbida nous dira comment se protéger du démarchage téléphonique, des pubs télé et des MST, sans oublier François Coulon qui nous parlera du drapeau breton dans la liste officielle des émojis. Alors, bon dimanche après-midi avec nous et à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage.
2 heures de découverte et de bonne humeur avec Mathieu Noël, Eva Rock, sa complice, un invité d'honneur et nos journalistes compétiteurs qui, vous le savez, chaque après-midi, du lundi au vendredi, doivent convaincre, captiver, séduire l'invité pour récupérer un maximum de points. Et puis le week-end, on vous offre une compilation de la semaine passée. Parmi les invités, cette semaine, il y avait la fille du père d'Astérix, autrement dit la romancière Anne Goscinny, mais aussi l'écrivain Daniel Pénac, l'acteur-écrivain Samuel Le Bihan, la comédienne Isabelle Carré, sans oublier l'animatrice Alessandra Sublet.
C'est un très beau moment de radio qui se profile dans l'équipe sauvage. Car entre deux sujets racoleurs sur les femmes à poil, les ados et le porno, l'intérêt du trouble ou encore ce que pensent les hommes pendant l'acte sexuel...
Faut que je bande.
Ève Roger, chef du service société, est une femme sensible et délicate, grande romantique, experte dans l'art subtil de la séduction. Elle aime qu'on lui fasse la cour avec pudeur et élégance, deux mains qui se frôlent, un parfum respiré au creux d'un poignet, une lettre écrite à l'encre de Chine et des mots d'amour pour attiser la passion. Pas vrai, Ève?
Y a pas besoin de parler pour baiser, hein.
Ah oui, j'aurais essayé de changer votre image. Voilà, j'ai échoué. Ève, ce soir, grâce à vous, on va enfin savoir si on embrasse bien. Question oui. que je me pose depuis bien longtemps.
C'est tellement chouette le baiser.
Je vais vous parler d'un petit livre qui s'appelle L'éloge du baiser qui sort aujourd'hui chez Flammarion et son auteur annonce la couleur dès la page de garde. Un jour sans embrasser n'est qu'une demi-journée.
Ouh, ça c'est très
ça,
beau.
Ça c'est joli.
Ah, bah,
hein.
Alors je suis à mi-temps depuis longtemps.
Merci Véronique. Merci Eva, et elle a raison. Alors le premier baiser, c'est le baiser d'une mère à son enfant. C'est aussi le premier baiser d'amour, celui de notre adolescence. On s'en souvient tous, enfin normalement. Alors soit il a été merveilleux, il nous a plongé dans des sensations inédites, ou alors ratage total, les dents qui s'entrechoquent, accompagné du fameux effet machine à laver.
Ah, oui, non, oui. Et puis attends, est-ce que tu savais, non, mais est-ce que tu savais, toi, Ève, qu'il fallait mettre la langue dès le départ?
Bah, je crois que oui, j'ai deux sœurs plus âgées que moi,
ah,
je
oui,
pense qu'elles auraient dû me le dire.
Et bah, moi, non.
T'avais pas de sœurs?
Je me suis fait déchirer. Non, j'étais l'aînée.
C'est vrai que t'étais l'aînée, oui.
Mais oui. Donc le gars m'a dit, je devais avoir 14 ans, il m'a dit, bah alors? Bah alors quoi? Faut mettre la langue. Ah non, bah ça va pas être possible, monsieur. Je m'en vais.
Donc Céline, elle va raconter ça, l'effet machine à laver que vous n'avez pas connu, non. Puisque vous n'avez pas mis la langue. On l'écoute.
On s'imagine un baiser langoureux, très romantique, et puis le baiser, il est complètement mécanique, où l'autre n'est pas du tout à l'aise, et justement, il applique des recettes, et donc on ressent plus le tournicotis dans sa bouche que tous les sentiments qui auraient pu être transmis à ce moment-là. Ça, c'est typique. Un baiser raté.
Alors vous connaissez l'effet essuie-glace aussi, droite-gauche, gauche-droite.
Ouais, mais oui, c'est très vrai ça. Hein. Donc ouais, on a tous vécu les mêmes trucs, c'est dingue.
Hein. Dans Redman, il dit mouillé. Quand il lui demande qu'est-ce que ça t'a fait d'embrasser la fille, il dit mouillé.
Merci pour intervention, Eva. Restons plutôt dans l'effet merveilleux. Ève, parlez-nous des baisers de cinéma.
Et oui, parce que c'est vraiment le paradoxe, parce que c'est à la fois les plus beaux, mais en plus, ils sont faux. Mm. Et le premier date de 1896, c'était dans un court-métrage américain qui s'appelait The Kiss, évidemment, ça fait scandale. Alors Hollywood a fixé des règles. Jamais plus de 2,15 m de pellicule. 2,15 m, ça fait 3 secondes. Alors là, je n'ai pas résisté à vous faire écouter l'un des plus mythiques. Hein, c'est en 1939, Autant en emporte le vent. Oh. Scarlett O'Hara, Rhett Butler, fermez bien les yeux.
You're a fool, Rhett Butler. When you know I shall always love another man.
Il se rapproche.
Stop it. You hear me, Scarlett? Stop it. No more of that talk.
Et voilà le baiser. Voilà. En 1946, Les Enchaînés d'Hitchcock, et là, le metteur en scène a une idée de génie pour contourner la fameuse règle des 3 secondes. Et ben, vous allez l'entendre. Écoutez, c'est Cary Grant et Ingrid Bergman qui font un baiser discontinu. Ils s'embrassent, ils parlent. Ils s'embrassent, ils parlent. Et ça dure. Et ils disent qu'est-ce qu'on mange, du poulet avec des assiettes ou avec les doigts. C'est ça qu'ils sont en train de se dire.
Mais ils s'embrassent un peu sur le menton, en fait. Hein.
Alors, j'ai bien regardé plusieurs fois les images, ils s'embrassent en vrai. Hein.
Sur la bouche.
Ah, sur la bouche. Mais pendant tellement longtemps.
Il y a plein de. Dans les vieux films, je veux bien que les baisers de cinéma, c'était une technique particulière. Mais enfin, dans les films dits réalistes aujourd'hui, les gens s'embrassent vraiment.
J'ai bien l'impression.
Ah oui, ça, bah, oui, il n'y a pas de truc.
Quand même avec la langue.
Hein. Ça doit être dingo, quoi. Quand t'es dans le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, moi, je veux bien être Margot Robbie, tu vois.
Elle nous révèle tous ses fantasmes en exclusivité pour Europe 1. Alessandra Sublet est avec nous.
Alors, il y a le baiser de Spider-Man, celui est très connu puisqu'il est
à l'envers.
Sam Raimi, là, vous savez.
Vous avez déjà embrassé quelqu'un à l'envers?
C'est pas facile.
Ah oui, mais ça veut dire que vous avez déjà essayé.
Ah bah évidemment, vous voyez.
Vous avez déjà vu une partie de Alessandra.
Faudrait qu'il soit sur un trapèze ou moins, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de cas où ça arrive. On va vous montrer après, mais.
Comment ça, vous avez
la chaudasse de niçoise, c'est comment toi?
La soca brûlante. Mais dans la vraie vie, le baiser, c'est aussi un échange d'informations entre partenaires.
Oui, alors ça, c'est vraiment le plus surprenant que j'ai trouvé dans ce livre. Il y a déjà 80 milliards de bactéries qu'on échange lors d'un baiser. Et puis les études scientifiques ont montré d'abord que le baiser permet d'échanger des informations génétiques. Et quand vous éprouvez un sentiment de proximité, d'attachement, c'est pas que vous êtes en train de tomber amoureux, en tout cas pas forcément, c'est que vos codes génétiques, vos systèmes immunitaires se complètent.
Mais non.
Et donc vous êtes prêts à faire ensemble des enfants bien robustes. Donc un bon baiser, agréable,
c'est
ça veut dire...
C'est le prélude à un bon enfant.
Absolument.
C'est, et donc,
génial.
Le baiser raté, c'est en réalité la preuve qu'on n'est pas fait pour procréer ensemble, parce qu'on est génétiquement incompatible. Et puis dans la salive, il y a aussi des informations relatives aux hormones.
Excusez-moi, j'ai des exemples qui me viennent en tête.
Oui.
Et du coup, je me dis, c'est bizarre.
Ah oui, parce qu'il y a certaines fois où vous vous êtes dit c'est bien, puis en fait, non.
Vous avez fait des enfants ou pas? Enfin, on ne va pas rentrer dans votre vie privée.
Non, demandez à Mathieu.
Je suis pour rien, moi, si tu as fait des enfants. Hein. Moi, tu m'avais dit non. Bon.
Dans la salive, il y a aussi des informations relatives à la testostérone, l'hormone sexuelle masculine destinée à la reproduction. Donc, messieurs, attention, la femme comprend très vite quel type d'homme elle a entre ses bras. Et inversement, un baiser avec la langue permet à un homme de juger de la fertilité d'une femme en évaluant son taux d'œstrogène. Donc, évidemment, le baiser est là aussi pour faire monter le désir sexuel. Parfois, après le premier baiser, tout est coupé net, l'envie, tout d'un coup, l'attirance n'existe plus.
Ça dépend si on a mangé un truc à l'ail aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas forcément une compatibilité génétique. Si tu veux, si tu viens de bouffer une tourte aux grenouilles à l'ail, forcément derrière, le baiser va être moins réussi que si t'as à Hollywood Chewing Gum.
Non, mais moi, je suis tombée alors que j'étais à fond. Hein.
Moi, je dis que le baiser, c'est le signe avant-coureur. Si le baiser n'est pas bon, il ne faut pas aller plus loin.
Non, mais là, je suis d'accord avec vous. Tellement d'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est tellement chouette un baiser.
Donc, il vaut mieux rester, comme dit Charles Aznavour.
Mais si en plus il vous fait danser juste avant de baiser, alors là. Vous savez, je voudrais dire un message à tous les garçons qui nous écoutent, les plus jeunes, parce que moi, mon fils a 5 ans, je lui répète tous les jours, faites danser les filles, dansez. C'est merveilleux d'avoir un garçon qui danse.
C'est vrai. C'est pour ça que j'ai si peu pécho dans ma vie. C'est que je danse si mal. Merci pour cette information importante, Alessandra Sublet. Mmh. Merci, Ève Roger. Alessandra, vous avez présenté une émission intitulée Action ou vérité. Alors maintenant, action ou vérité? Je vous dis action ou vérité.
Vérité.
Vérité, alors jour, heure et circonstance de votre premier baiser.
Ah, et ben c'était donc j'avais 14 ans à l'école, au collège, et donc le garçon me plaisait, je lui plaisais, et en fait je me rends compte qu'il m'a maltraité ce petit con, parce que en fait il m'a entraînée dans les toilettes et il m'a dit on va se faire un bisou, et j'ai fait ok, j'étais hyper prude et toutes mes copines avaient déjà roulé des pelles, et je n'ai pas mis la langue, et donc il m'a envoyé chier.
Et vos copines vous avez pas dit il faut mettre la langue?
Non, mais mes copines m'ont pas dit quand on a un enfant c'est super, ça va être la galère. Mes copines m'ont dit tu vas vivre le plus beau moment de ta vie, j'ai fait un baby blues et j'en ai écrit un livre. Donc je ne compte plus sur mes amis, vous voyez ce que je veux dire.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et revivez les moments essentiels de la semaine passée, c'est la compile du week-end avec Mathieu Noël, entouré d'Eva Rock et d'un invité pour arbitrer la compétition, puisque l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition. Retour donc sur vendredi 24 janvier dernier, durant l'émission en public.
Pour nous accompagner aujourd'hui, une invitée d'honneur que j'aime profondément. Quelqu'un qui me touche en tant qu'artiste et, dois-je l'avouer, également en tant que femme. Pour vous donner une idée, la dernière fois que j'avais été fébrile comme ça, c'était face à Jeanne Chéral.
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous...
Je sais pas, mais c'est... Enfin... je prends ma respiration et j'y vais. Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Attention, parce que si vous êtes timide, ça va me rendre timide aussi. Hein. Ah,
deux timides qui se rencontrent. Isabelle, vous serez la semaine prochaine à l'affiche avec François Berléand, que nous recevions hier, de l'Esprit de famille d'Éric Bénard. Mais on peut d'ores et déjà vous voir en vrai, dans détail, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Comment vous résumeriez cette pièce faite de scénettes de la vie conjugale? Vous avez 4 heures.
J'ai 4 heures. Ça va aller alors. Mais c'est l'histoire de deux couples qu'on suit pendant une dizaine d'années, une décennie un peu particulière, celle des années 90. Alors, je vais un peu casser l'ambiance, mais prise entre deux effondrements, la chute du mur et la chute des Twin Towers. Voilà, et sont des gens qui essayent de retrouver le bonheur.
L'équipe sauvage.
Pour cette 101e édition de l'équipe est sauvage, nous recevons donc Isabelle Carré. Mais pour la 100e, hier, nous recevions François Berléand, qui a une question pour vous, Isabelle.
Ah, Isabelle, c'est François Berléand. Voilà, je voudrais te poser une question, parce que ça m'énerve. Comment tu fais pour toujours être exceptionnel dans tous les films, toutes les pièces que tu joues? Voilà, comment tu fais?
Visiblement, ça s'est mal passé sur le tournage de l'Esprit de famille.
C'est vrai qu'il y avait une ambiance incroyable, tout était idyllique. Le metteur en scène, Éric Bénard, nos retrouvailles avec François, effectivement, avec qui j'avais déjà tourné dans plusieurs films. Josiane Balasco, qui m'avait dirigée dans Cliente. Et Guillaume de Tonquédec, avec qui j'avais joué quand j'avais 20 ans, L'école des femmes.
Donc c'est des grandes retrouvailles, ce film.
Ouais, et c'est vrai que du coup, cet esprit de famille, il
ça
était vraiment
sent.
Là.
Et
quoi.
Il se sent, il est palpable à l'écran. Vous jouez donc au Théâtre du Rond-Point en ce moment. C'est pas la première fois que vous jouez dans ce théâtre. C'est une salle assez symbolique pour vous. Vous dites, j'ai débuté à 17 ans, j'avais rendez-vous avec une copine dans le hall de ce théâtre quand Jean-François Balmer est venu me voir et m'a demandé si je pouvais pas passer une audition. J'étais en avance, j'ai accepté.
C'est là que tout a commencé.
C'est vrai, et je dois vous dire que tous les soirs, en fait, je regarde la petite fenêtre. En fait, c'était la salle où on allait. Voilà, on jouait là avec Jean-François. Et tous les soirs, quand j'arrive au repos, je regarde cette fenêtre et j'ai l'impression de retrouver l'excitation de la première fois, quoi. Peut-être pour ça que j'aime particulièrement ce théâtre, outre le fait que c'est quand même un lieu culturel. Enfin, ce qu'en a fait Jean-Michel Ribes est quand même assez exceptionnel. En plus, les auteurs vivants, moi, j'aime le théâtre contemporain. Pourquoi ? Parce qu'ils nous parlent de nous, en fait. Moi, quand je suis spectatrice, au théâtre, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'on me parle de moi, de mes préoccupations, de mes questions du moment. Bon, même si, effectivement, quoi, les grandes pièces de Shakespeare vous parlent de vous aussi, mais quand même, ces questions voilà, qui sont soulevées dans la pièce Détail, par exemple, le désir d'enfant, les fécondations in vitro, on parle aussi de ça, on parle des migrants, des réfugiés.
Il y a plein de résonances avec l'actualité.
Il y a plein de résonances. Ouais. Parce qu'on parlait de ces années 90, c'est vrai qu'elles sont particulières dans le sens où c'est vraiment en germe tout ce qu'on va vivre aujourd'hui, en fait. La mondialisation qui commence. C'est assez fascinant, ouais.
Avec Eva, on est ravis de l'accueillir. C'est vrai, elle est belle, elle est lumineuse, elle est brillante.
C'est fou, hein ? C'est ma sœur jumelle.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Puisqu'on la reçoit, nous sommes allés vous poser la question. Qui est pour vous Isabelle Carré ? Voici, non pas un micro-trottoir gentillet, on n'est pas chez Drucker. Voici notre micro-trottrache. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a laissé aussi les vacheries.
Bonjour Isabelle Carré.
Une petite blonde, oui, c'est ça.
Les timides, là, comment le truc des timides, hein, avec Poulvord et puis hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles, un truc comme ça qui était très bien.
Elle est fraîche, elle est charmante, elle est adorable, oui, je l'aime bien, oui.
Moi, le cinéma, j'aime pas ces gens-là. Ils ont la belle vie, ils foutent rien. J'ai les acteurs, vous connaissez le film.
Adorable. Ah oui, moi j'adore Isabelle Carré. Ah ben si, pourquoi je l'aimerais pas? Ça a l'air de vous étonner.
Je vais voir ce soir la pièce avec Isabelle Carré, Détail. Au rond-point, parce que mon cher, je suis abonné au théâtre du rond-point.
Elle dégage beaucoup d'émotions, elle est sensible, elle est assez émouvante, elle est touchante, je trouve.
Isabelle Carré, une exceptionnelle actrice.
Très sexy, en tout cas.
Ah ouais, on a tout laissé, on vous a dit, on a tout laissé. Ça vous convient ? Vous
connaissez ? Je me tourne un peu, j'ai l'impression que. Ah bah,
excusez-moi Isabelle Carré, mais on n'a qu'à regarder, on va revisionner.
Non, il
n'y
a que dans 4 étoiles.
Effectivement. Sexy dans 4 étoiles, je me fais
d'ailleurs, les journalistes me disaient à chaque fois à la fin du film, mais pourquoi vous ne restez pas comme ça ? Bah, 2 heures de maquillage.
Oh non, vous êtes si.
Une heure de coiffure, 2 heures de maquillage.
Non, mais il paraît qu'on vous dit souvent Isabelle Carré discrète et lumineuse.
Absolument. Ça. Je m'en suis amusée d'ailleurs dans mon livre
Les Rêveurs. Oui.
Voilà, et pour démonter un peu ça, le livre s'appelait au début La partie émergée de l'iceberg à cause de ça, enfin en partie en tout cas.
Alors donnez-nous deux adjectifs qui vous caractériseraient et enfin les journalistes arrêteront de vous embêter avec les discrètes et lumineuses.
Aidez-nous à être moins cons.
Je sais pas, c'est super dur. On est 1000, dit Pirandello, voilà.
Ah bah ouais, c'est plutôt bien. Pas mal comme réponse. On est 1000. Moi j'aimerais revenir sur une chose, vous avez 3 enfants si je ne m'abuse,
oui.
Si Wikipédia dit vrai. Vous, dans votre jeunesse, vous avez une enfance, vous êtes l'anti-Tanguy par excellence. À 15 ans, vous décidez de vivre seul. Oui. Et vous, votre père payait le loyer, mais vous payez tout le reste, c'est-à-dire que pour gagner votre argent, vous faisiez des photos pour des magazines ados comme Jeune et Jolie ou OK Podium.
Oui.
C'est une époque un peu libre. Est-ce que vos enfants, vous leur laisserez la même liberté ?
Non, absolument pas. En aucun cas.
Donc vous les mettez en garde contre les dangers de cette vie-là ?
Déjà, je ne parle pas de mon départ à 15 ans, déjà.
Ah oui, donc là, ils l'apprennent, en fait.
Aucune imitation ne sera possible.
Donc, voilà. On ne reproduit pas ça chez les Carrés aujourd'hui. Les enfants, si vous nous écoutez, on reste à la maison. Elle passe un merveilleux moment en notre compagnie. Je sens qu'elle adore toute l'équipe et qu'intérieurement, elle se dit...
Espèce de blaireau.
Non, ils sont géniaux dans cette émission.
En aucun... Non, pas du tout. Je suis très bien avec vous.
Isabelle Carré passe l'après-midi sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
2 heures pour apprendre et se détendre, inversement ça marche aussi. Et pour conduire cette équipe sauvage, Mathieu Noël. À ses côtés, Eva Rock et nos journalistes compétiteurs. Ici, le monsieur innovation d'Europe 1, Anis et Mbida, en présence de l'écrivain Daniel Pénac. C'était lundi sur Europe 1.
Anis et Mbida, aujourd'hui, vous nous offrez un voyage dans le futur. Un futur à la fois attrayant et aussi un peu effrayant.
Oui, la technologie, c'est formidable, sauf quand certains en abusent. Hein. Vous savez, aujourd'hui, quand on a un téléphone portable, tout le monde en a toujours sur soi. Donc certains en profitent pour vous harcelé au téléphone. Il y a eu plusieurs associations de consommateurs la semaine dernière qui ont fait une pétition pour monter au créneau. Il va y avoir une loi qui va être votée cette semaine, enfin un projet de loi qui va être voté cette semaine pour régler ce problème. Et moi, j'ai quelques petites solutions technologiques pour éviter de se faire harceler au téléphone. Alors, sur le mobile, Il existe sur certains appareils aujourd'hui une fonction qui automatiquement, quand le numéro de téléphone n'est pas dans votre carnet d'adresse, quand c'est un numéro qui est soit masqué, soit qui n'est pas dans votre carnet d'adresse, eh bien on peut demander de le basculer automatiquement sur la messagerie.
Ah, ça c'est vachement bien.
Ça c'est une fonction qui existe de plus en plus.
Et sur alors, les téléphones fixes, comment on trouve cette fonction?
Ah mais c'est dans les appels.
Ah, c'est dans les paramètres.
Dans les paramètres du téléphone. C'est même pas une application que l'on peut télécharger. C'est surtout les iPhones quand on met la dernière version et sur les téléphones Android. Sur les téléphones fixes, ça existe également, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des robots qui nous appellent de façon automatique. Mmh. Eh bien, il existe des téléphones fixes où on peut basculer sur une fonction filtre qui, dès que quelqu'un vous appelle, il va demander à la personne appuyer sur 1 pour parler à une personne, pour parler à quelqu'un.
Comme ça, le robot ne peut pas appuyer
sur
1.
Comme ça, le robot, il ne sait pas appuyer sur 1 et vous êtes complètement tranquille. Encore une fois, ça fonctionne que si le numéro qui est appelé n'appartient pas au carnet d'adresse. Et la solution qu'on va avoir demain, qui va être encore plus perfectionnée, c'est un système où c'est l'assistant. Vous savez, on a tous des assistants sur nos téléphones portables. L'assistant va répondre automatiquement au téléphone. Il va répondre automatiquement au téléphone. Bonjour, vous voulez parler à Mathieu Noël? Pourquoi vous voulez parler à Mathieu Noël?
C'est bien ça.
Et en fait, la personne parle à l'assistant.
Vous êtes baroque? Non, il n'est pas disponible.
Non, mais ce qui est encore plus amusant, c'est qu'il va décrire, il va retranscrire tout ce qui est en train de se dire. La conversation qui est entre la personne qui vous appelle, le télémarketeur et l'assistant, et vous voyez tout s'afficher au fur et à mesure.
C'est encore plus flippant.
Non, parce que si jamais, finalement, c'est quelque chose d'intéressant, vous pouvez reprendre la conversation.
On reprend la main.
Et exactement comme les vieux répondeurs, vous savez, à l'époque, on avait le répondeur, et on filtrait avec son répondeur. Ouais, ouais. Et bien là, c'est l'assistant qui bavarde, qui fait la conversation.
Si c'est une pompe à chaleur, mais intéressante, pour le coup, qu'il y a une bonne promotion, hop, on décroche.
Donc, c'est des fonctions qui arrivent. Ça va arriver sur les téléphones Android dans quelques mois.
Mais on est d'accord, tout ce que vous venez de nous dire, c'est pour le télémarketing. C'est-à-dire quand c'est des publicitaires qui nous appellent. Enfin,
ou même, c'est toutes les personnes qui ne sont pas dans le carnet d'adresse sont filtrées automatiquement. Donc évidemment, il y a les télémarketeurs, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on n'a pas envie, à qui on n'a pas envie de parler.
Question des Varocs de Paris. Comment se protéger des baratineurs sur Tinder?
Alors ça, le cas typique, c'est la photo de profil. Vous savez, prenez un rendez-vous, vous pensez avoir un rendez-vous avec Brad Pitt ou avec Angelina Jolie, vous vous trouvez avec Boudère ou
moi,
bien
je mettais la photo de Daniel Pennac, je cartonnais à chaque fois. Hein,
j'étais
un peu déçu.
Eh bien, aujourd'hui, il va y avoir un système pour valider la photo de profil, pour ne pas se retrouver avec une personne qui est pas... Et en fait, c'est un système où on va demander, Tinder va demander de vous prendre un selfie, c'est-à-dire qu'on va se prendre en photo avec
le système. Ah, c'est la reconnaissance faciale,
il va faire de la reconnaissance faciale. Il va analyser votre visage, qu'il analyse en direct, avec la photo de profil, voir si c'est conforme. Et dans ces cas-là, il va valider, il dit le profil, la photo est validée, comme ça on n'aura pas de surprise quand on arrive.
Il faut donc être de face pour la photo de profil.
Bien joué.
Ouh, joli. Anicem Bidar.
Non, mais pour des raisons de sécurité, c'est quand même vachement bien parce que là, on plaisante avec Tinder, mais c'est vrai que c'est pas mal. Quand même.
Notamment que Tinder commence à rajouter une fonction panique. C'est-à-dire que quand on va à rendez-vous et qu'on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer, eh bien, on donne l'heure du rendez-vous, le lieu du rendez-vous. Et quand on arrive au rendez-vous, s'il y a le moindre problème, on appuie sur. On secoue son téléphone et grosso modo, la police est prévenue automatiquement.
Mais c'est discret devant la personne.
Non, mais on peut le faire dans son sac, dans sa poche. On dit, on prend son téléphone et puis ça lance une alerte automatiquement.
On connaît ici les bloqueurs de pub sur Internet. Il existe un bloqueur de pub à la télé.
Oui, alors ça c'est un petit boîtier magique, c'est tout simple, on le met derrière sa télé, enfin face à sa télévision, et il va analyser l'écran, et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait la pub, quand le logo disparaît, le logo de la chaîne disparaît, c'est qu'au moment de la pub.
Donc lui,
il surveille le logo, dès que le logo disparaît, pouf, il baisse le son automatiquement de votre télévision, et ça permet comme ça d'avoir un espèce de bloqueur de pub automatique sur sa télévision.
Je vous laisse poser la dernière question, l'ultime innovation qui pourrait nous intéresser tous, évidemment, mais... Je vous laisse la parole un petit peu quand même.
C'est important de se protéger après son rendez-vous Tinder. Alors, il paraît qu'il y a des préservatifs qui vont changer de couleur. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Spécial quand même ça.
Alors, évidemment, c'est un préservatif qui protège des MST, comme tous les préservatifs, mais en plus qui est pédagogique. Ça veut dire qu'on va avoir... Le préservatif va passer au rouge quand c'est la syphilis, au vert quand c'est la chaude pisse, ou je ne sais quoi.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard.
C'est une idée qui vient d'étudiants. Ce sont des étudiants britanniques à qui on a demandé qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour pousser, favoriser le port du préservatif. Et eux ont trouvé cette idée-là parce qu'il y a deux utilisations qui peuvent en être faites. La première, c'est pour soi, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le préservatif pour se tester soi-même si on a une MST ou pas.
Ah oui, d'accord, ça fonctionne.
Et on peut aussi le tester sur son partenaire pour lancer la discussion à l'après avec son partenaire. Tiens donc, il est jaune de préservatif. Comment ça se fait?
Petite discussion sympathique sur l'oreiller.
C'est un peu le problème et l'avantage de la technologie, c'est que ça règle des problèmes. Mais ça en crée d'autres qui vont créer des discussions et peut-être demain créer de nouvelles technologies qui vont régler ces problèmes-là. C'est un peu la course de l'innovation de la technologie.
D'habitude, je pose toujours la question aux journalistes, est-ce que vous l'avez testé? Là, je n'oserais pas.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. sur Europe 1, l'équipé sauvage.
avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, qui va d'ailleurs être opposée à Samuel Le Bihan pour un quiz spécial géographie. Samuel Le Bihan qui était venu mardi nous parler de son roman sur l'autisme, Un bonheur que je ne souhaite à personne, et qui vient de sortir en livre de poche.
Vous nous présentez la sortie en poche d'un roman très autobiographique, on va y venir, il s'intitule « Un bonheur que je ne souhaite à personne », l'histoire d'une maman qui se bat pour aider son fils autiste à s'intégrer. Il y a évidemment beaucoup de vous dans ce livre, puisque vous en parlez librement, vous avez vous-même une fille autiste, donc c'est votre histoire, mais romancée.
Non, c'est pas mon histoire.
Il y a des choses que vous avez vécues.
C'est l'histoire de ces mamans qui se battent, et donc j'avais lu des articles dans les journaux, et j'avais été extrêmement impressionné. Ces mamans qui sont en haut des grues.
On se souvient des images. Ouais.
Et voilà, donc je me suis dit, il y a une belle histoire à raconter derrière qui permet à la fois d'apprendre ce que c'est l'autisme et en même temps de vivre des vraies émotions sur une femme seule avec ses enfants qui doit se battre pour ses enfants et puis qui se pose aussi des questions sur l'amour, sur c'est quoi la vie, c'est quoi ce qui lui est donné dans cette société, c'est quoi sa place et c'est quoi cette quête du bonheur. Et la question du bonheur est centrale dans le livre. Et puis j'avais envie de parler d'une femme guerrière, une espèce de lionne qui se bat pour ses enfants et qui se transforme au moment où justement elle découvre que ses enfants sont fragilisés. Ça m'émouvait énormément.
Alors Samuel, vous avez un parcours professionnel et personnel vraiment atypique dans le métier. On va en parler tout au long de l'émission. Vous faites mille et une choses. En 2018, vous avez publié un roman intitulé « Un bonheur que je ne souhaite à personne ». Un livre qui a connu un très grand succès et qui ressort aujourd'hui en poche aux éditions J'ai lu. Dans cet ouvrage, vous racontez le désarroi et le combat d'une mère qui apprend que son fils est autiste et qui va se battre pour qu'il ait la vie la plus normale possible. C'est quoi déjà pour un enfant autiste la vie la plus normale possible? Il ne faut pas souhaiter qu'il soit dans une institution particulière, il faut qu'il soit déjà en classe normale. Quand on est parent d'un enfant autiste, c'est déjà ce qu'on désire le plus.
En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'un enfant autiste qui est au contact des enfants, ce qu'on appelle typiques, hein, des personnes typiques, a plus de chances d'évoluer, d'apprendre un certain nombre de choses, surtout dans les interactions sociales, et puis dans le langage, dans les demandes, dans les reconnaissances d'émotions, de toute une palette de choses qu'on a normalement à notre naissance et qu'il faut qu'il apprenne. Je pense que c'est aussi extrêmement enrichissant pour les enfants aussi dans l'école, d'être au contact de la différence.
Il y a des pays où ils s'en sortent mieux que nous vis-à-vis de l'autisme. Je crois qu'en Italie, en Angleterre, notamment, la scolarisation atteint des taux de 80, voire 100%, je crois, dans certains pays.
En Italie, ils atteignent presque 100%, ouais. Parce qu'ils ont décidé aussi, l'intégration totale, quoi. Donc, c'est fermer au maximum tous les centres et pour obliger, vraiment, mettre des mécaniques en place pour l'intégration. Alors, à terme...
Et en France, c'est combien, juste pour avoir une idée?
Je sais plus, je crois que c'est 20%.
Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. On est loin du compte.
Si on intègre quelqu'un, si on arrive à lui même créer au sein d'une entreprise aussi des postes adaptés, on crée une dynamique à la fois solidaire et en même temps, on crée plus de bonheur, tout ça aussi, et puis plus de possibilités d'évolution. On crée une société qui est beaucoup plus intéressante.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Une émission extrêmement travaillée en amont, on vérifie tout trois fois, sauf peut-être le nombre d'enfants de l'invité. S'il y a un domaine où on doit encore progresser, c'est là. Vous êtes papa, vous avez deux enfants, si je ne m'abuse.
Trois.
Vous avez deux enfants et
J'en ai cinq.
Vous avez cinq enfants,
ouais.
Mes filles sont bien faites. Vous avez déjà trois enfants, si je ne m'abuse, c'est ça?
Non, j'en ai qu'une seule.
Salut Alain, dites pas. Vous n'avez bien qu'une fille.
J'ai trois enfants.
Eh bien voilà, c'est parfait. Encore banco. Samuel Le Bihan, j'étais en train de me dire hors antenne que vous n'étiez pas un invité facile pour un intervieweur parce que vous avez une vie tellement multiple, vous avez fait tellement de choses. Rien que dans votre parcours de comédien, si Wikipédia dit juste, vous avez été cracheur de feu.
Vous avez
fait la Comédie française, mais vous avez tout fait, quoi. C'est incroyable comme parcours.
C'était encore du dingue parce que j'ai démarré en jouant dans la rue. Donc forcément, je faisais du mime, un mime assez burlesque où je suivais les gens. Enfin, c'est ce qu'on retrouve. J'ai même joué sur le parvis de Beaubourg. Et cracher le feu, voilà, c'est avec les rencontres, à un moment on apprend des choses. Et puis après, j'ai un peu organisé tout ça.
J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, tiens, je vais t'apprendre à cracher du feu.
Bah ça vous a peut-être regardé où vous en seriez aujourd'hui, Eva, au lieu d'être là à pouffer vêtements dans un micro. Alors, mon cher Samuel Le Bihan, on discute paisiblement, mais ma vraie nature, la ville est nid, n'est jamais loin. C'est l'heure du quiz qui va vous opposer à Eva Rock. Si je peux me permettre un petit conseil, attention à ne pas trop réfléchir, car c'est un quiz qui présente une double difficulté. Il est non seulement très con, mais en plus il est truffé de pièges, donc c'est absolument inutile d'essayer de répondre sérieusement, comme Daniel Pénac hier.
Daniel Pennac, il y a tellement de personnes portant le nom de Andersen en Norvège que le pays a eu 3 premiers ministres à la suite qui s'appelaient ainsi alors qu'ils n'étaient pas de la même famille. Vrai ou faux ?
Parce que, voyons, j'en ai connu 2, Jean-Paul Andersen. Il y avait Françoise Andersen. Et Lucille. Donc il y avait quand même un gars et deux filles. Non, oui, c'est vrai.
C'est vrai ?
Oui.
C'est faux. Donc, mon conseil, répondez plutôt à l'instinct. Aujourd'hui, entre la niçoise et le fier breton, nous avons décidé d'organiser une joute géographique. Je vais vous poser des questions sur Nice, la ville natale d'Eva. Et à cette dernière, je vais poser des questions sur votre Bretagne adorée. Pour l'un comme pour l'autre, ce sera un peu rendez-vous en terre inconnue. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Samuel Le Bihan, Dick Rivers, est né à Nice. Alors déjà, il n'y a pas de vanne. Dick Rivers est né à Nice, c'est factuel. Oui. Chanteur des Chats Sauvages, il a fait également quelques reprises assez bien senties, parmi lesquelles, 3 propositions. Une parmi ces 3 propositions. Une reprise en slow de Personal Jesus des Depeche Mode. 2, une reprise disco de Pretty Woman de Roy Orbison. Ou un twist de Let the Music Play de Barry White.
C'est pas vraiment une question sur Nice. Hein.
C'est pas vous, c'est Samuel qui
répond.
Oui,
je sais bien, mais quand même, j'essaie de le défendre.
Plus probable.
Allez, le plus probable, Barry White, éventuellement, mais.
Barry White. Alors, ça, je dois dire que Dick Rivers qui chante Barry White, voilà. J'aurais voulu l'entendre. Écoutons voir si c'est ça. Il avait opté pour une reprise disco de Roy Orbison,
Pretty Woman.
Ah, ça c'est disco. Bah, pour Dick, c'est très très disco ça. Hein. Ah, c'est magnifique. C'est...
Mathieu
Je
Charrier.
Savais que vous aviez bon goût, Mathieu Charrier. Eva Rock.
Oui.
En décembre dernier, dans la gare de Brest, comme les urinoirs pour hommes étaient gratuits et les toilettes des femmes payantes, qu'a décidé la SNCF ? 1. D'installer des pistes debout gratuites pour les femmes. Ou 2. De supprimer les urinoirs pour les hommes.
Et je crois que c'est des pistes debout pour les femmes.
Et c'est une mauvaise réponse.
Ah,
c'était effectivement la bonne réponse qu'aurait dû apporter la SNCF.
Bah oui.
Ça aurait été quand même un peu malin. Mais non, ils ont supprimé les urinoirs gratuits. Résultat, selon les internautes qui ont trouvé cette décision aberrante, le parking de la gare sent un petit peu fort l'urine. Les hommes se soulageant un peu partout. Boys will be boys. Mathieu Charrier, vous en savez quelque chose. Samuel Le Bihan et Eva Rock, vous répondez en même temps. Quel produit n'existe pas en Bretagne ? 1. Un gel douche au Queen Amman. 2. Du pastis made in Bretagne.
Ah, si, ça, ça
ou 3. Le pâté Enaf à l'andouille de Guéméné.
Ça existe aussi.
Ouais. Oh, non, ce
donc
gel
vous répondez.
Douche,
mais attention. Réfléchissez bien.
Moi je dis le gel douche.
Le gel douche. Vous dites le gel douche. Très bien. Peut-être que Samuel, qui lui n'a pas un jeu sur la langue, peut répondre autre chose.
Évidemment, c'est le gel douche au Cognac.
Non, mais il faut se méfier parce qu'il est suffisamment.
Ah, je vous ai pourtant averti.
Je dirais la 3.
Il y a un mec.
Je vous ai pourtant averti.
Il est fourbe.
Vous avez faux.
Voilà.
Car ils existent tous.
Non. Voilà.
Le pâté NF à l'enduit de Guéméné est parfumé aux pommes.
Le pastis
breton est produit
à Avignon.
Le gel douche au Queen Amman est produit à Saint-Donant, dans les Côtes-d'Armor. Eh bien, je vous en ferai livrer.
Ah ben
parce
oui.
Que, alors ça, un gel douche au Queen Amman.
Ça doit coller.
Mais pourquoi vous vous caressez en faisant ça ?
Je me caresse. Pour se laver, Eva, il faut un petit peu se caresser.
D'accord.
Eva Rock, Ubisoft,
oui.
La célèbre entreprise de jeux vidéo, tire les 3 premières lettres de son nom de Union des Bretons Indépendants. Vrai ou faux ? Ubisoft, qui a quand même produit des jeux énormes,
non,
comme Assassin's
faux.
Creed, par exemple.
Non,
c'est faux ?
Ouais.
Eh bien,
c'est vrai, c'est des Bretons.
On leur doit la franchise, par exemple, de Assassin's Creed, mais aussi Just Dance. Ouais. Ubisoft a été créé par les frères Guillemot.
Et Lapin Crétin, surtout.
Et les frères Guillemot, qui étaient originaires de...
Bretagne.
Oh, vous avez bien suivi. Samuel Le Bihan, attention, c'est la question qui va vous départager. Repartons à Nice et l'UNS, comprenez l'Université Nice-Sophia Antipolis. En sont sortis dans des disciplines différentes Michel Larocque, Jean-Pierre Bacry et Le Clésio. Mais aussi une personne qui a décroché une licence de droit. Vous avez 13 secondes pour l'identifier en écoutant. Je t'aime trop, un titre sorti en 1978, mais chanté par qui ? Avez-vous reconnu cette voix ?
Aucune idée.
Un indice.
Un indice ? Il a écrit un tube pour quelqu'un. Allez, je donne un indice. Il a aussi écrit un
si
tube.
Je sais. Non, c'est Julien Lepers.
Oh, 4 à la fin, pas 4 à la fin. Oh, la suite, c'est déjà pas mal pour Eva. C'est effectivement Julien Lepers qui a également composé pour le plaisir d'Herbert Léonard. Alors, qui remporte ce quiz? C'est un peu serré, mais c'est quand même effectivement Samuel Le Bihan qui l'emporte. Oui, les calculs sont formels, Eva. Ne contestez pas l'argument.
Je n'ai rien dit.
Il a triomphé de la bête du Gévaudan, mais Eva Rock, c'était encore un autre morceau. Il l'a fait. Sacré bonhomme que ce Samuel Le Bihan.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et ce sont les dernières minutes de cette compilation du week-end avec Mathieu Noël, toujours entouré d'Eva Rock, d'Olivier Pouls aussi, qui a choisi un plat japonais pour sa recette de dernière minute, et d'un invité, ici la fille du créateur d'Astérix, la romancière Anne Goscinny. C'était donc jeudi sur Europe 1.
Moi qui ai lu 15 fois le fils d'Astérix, si on m'avait dit un jour que je serais la fille de René Goscinny, Anne Goscinny passe l'après-midi sur Europe 1. On évoque votre père, évidemment, d'autant qu'Astérix vient de fêter ses 60 ans. Mais on parle aussi de vous, Anne, romancière, et depuis quelques temps, romancière jeunesse. Avec l'illustratrice Catel, vous vous adressez aux enfants. Or, s'adresser aux enfants, c'est tout un art. Alessandra Sublet, notre invitée d'hier, nous l'a démontré en tentant de nous présenter son émission de striptease comme un programme tout public.
Et les garçons, ils sont nu-nu. Non, nous, on a que le haut nu-nu. On n'a pas le bas nu-nu.
Oui, tout le monde dit les nu-nu et c'est très mignon-nion. Enfin, c'est quand même du cul. Vous, Anne Goscinny, vous publiez donc avec Catel le tome 4 du monde de Lucrèce. Qui est Lucrèce pour ceux qui n'auraient pas, comme moi, lu ça à leur enfant?
Lucrèce est une préadolescente, comme on dit maintenant. Mmh. Elle est en sixième, elle a 11-12 ans. Elle a envie d'aller voir du côté des adolescents. Vous savez, un peu comme on va marcher dans une mer trop froide et vite se rapatrier sur le sable chaud de l'enfance parce qu'on se dit non, les adultes, je suis quand même un peu jeune. Et puis, elle a des copines et puis elle vient d'une famille recomposée puisque ses parents ont divorcé. Elle est élevée par sa mère et son beau-père. Elle a un demi-frère et tout se passe bien. Elle a une tortue que j'ai appelée Madonna. Oui, alors ce qui est drôle, et c'est là que je vois que je suis vieille.
Oui, c'est que les jeunes ne voient plus Madonna.
Et Madonna, elle est pour les adolescents.
Il fallait l'appeler Lady Gaga.
Oui, non, mais c'est ça.
Les adolescents d'aujourd'hui.
Ou Angèle.
Ah oui, Angèle, oui, c'est vrai.
Mes enfants m'ont dit, mais pourquoi pas Angèle? Je dis, mais qui est Angèle? Et alors là, en général, on reprend encore un petit coup de vieux. Mais effectivement, elle s'appelle Madonna.
Jean-Philippe Ballas.
Oui, moi, mes filles sont de grandes lectrices de Lucrèce. Ouais. C'est une des premières questions qu'elles m'ont posées. Elles m'ont dit,
c'est qui Madonna?
S'appelle Madonna, on ne sait pas pourquoi.
Oh, voilà. C'est dingue,
c'est ça, c'est
j'ai
terrible.
Dû expliquer.
Mais elle connaissait Madonna quand même.
Mais non!
Non, Emmanuel, remettez-vous.
Enfin, grâce à la tortue que j'ai créée avec Catel, maintenant elle connaît Madonna.
On peut le dire. Relancé la carrière de Madonna. Elle vous doit une fière chandelle.
Et il y a un autre personnage qui est la grand-mère maternelle, ah oui, Scarlett.
C'est ma préférée, celle-là.
Moi aussi, je l'aime beaucoup, notamment parce,
oui, parce qu'elle picole. Oui, elle est comme
parce
vous.
Parce qu'elle picole.
Ouais, ouais, elle est complètement transgressive. Elle porte de la vraie fourrure. Elle picole. Un jour, c'était pour le volume 3, je suis convoquée chez Gallimard. Et ils me disent, écoute, Anne, c'est un peu délicat, mais en 10 histoires, on a dénombré 11 alcools différents. On te rappelle quand même que tu t'adresses à des enfants de 9 à 13 ans. Est-ce que la mère, quand elle rentre du boulot pour se détendre, elle pourrait pas plutôt prendre un Perrier menthe plutôt qu'un verre de blanc? Je dis, bah non les gars, moi quand je suis tendue, je prends plutôt un verre de blanc qui me détend plutôt qu'un Perrier menthe.
Est-ce que Lucrèce, c'est le petit Nicolas transgressif?
Non, Lucrèce, ce serait plutôt une petite sœur du petit Nicolas, ouais. Du 21e siècle.
Moderne, quoi.
Parce qu'elle n'est pas si transgressive. Lucrèce, elle aime bien les normes. Et en fait, Lucrèce, elle est souvent plus mûre que les adultes qui l'entourent. Alors, il y a cette grand-mère qui, à part l'alcool, a une autre passion qui est la vraie fourrure. Parce qu'elle dit que pour elle, les animaux les plus mignons sont des animaux morts. c'est elle qui parle. Moi, j'adore les animaux. Et en fait, ça fait vraiment marrer les gamins. Quand je parle avec des jeunes lecteurs, ils me disent tous, le personnage préféré, c'est Scarlett, qui s'appelle Arlette, mais qui préfère se faire appeler Scarlett. Pareil, ça ne dira rien à nos jeunes lecteurs. Scarlett et Rhett, ça ne leur dit plus rien.
Non, mais ça marche quand même. Le monde de Lucrèce, tome 4. Et bientôt, le tome 5 en mai, c'est ça?
En mai, c'est ça.
Anne Goscinny passe l'après-midi sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et c'est un moment absolument magique qui se profile pour notre invitée Anne Goscinny qui, petite, demandait toujours à son père « Mais il existe en vrai, Obélix ?» René ne vous l'avait jamais dit, mais oui, il existe. Et il est belge. Son régime quotidien, 4 sangliers à la broche et puis...
De temps en temps, un sanglier.
Oui, aussi en plus, pour le dessert. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Anne Goscinny. Alors, tout de suite, deux précisions importantes. Je l'avais déjà dit à ce micro d'ailleurs.
Vous êtes belge.
Bon, ça on le sait. Mais les Gaulois ne mangeaient pas pas tant de sangliers que ça.
C'est fou, ça.
En réalité, hein, puisque c'était une viande de chasse et qu'eux avaient domestiqué déjà les animaux. Ils mangeaient plutôt de la volaille ou ce qu'ils élevaient.
En revanche, ce que je peux vous annoncer aussi, mon cher Poul, c'est que les Gaulois ne mangeaient pas non plus de tempura.
Non.
Et c'est pourtant la recette que vous avez choisie pour Anne Goscinny aujourd'hui.
Mais parce que
pile dans le mille.
Nous partageons, je crois, une même passion pour la cuisine japonaise.
Absolument. Je suis folle de cuisine japonaise.
D'accord.
C'est ce que je préfère.
Eh oui, moi je me renseigne sur mes invités, mon cher Mathieu.
Et
non, mais entre la comtesse de Ségur et la cuisine japonaise, je suis complètement chez moi.
Ah mais non, je dis bravo à mes chroniqueurs parce que moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils me font avec la comtesse de Ségur, le tempura,
et qui c'est Anne Goscinny d'ailleurs.
Mais qui est Anne Goscinny et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Astérix, ce petit guerrier gaulois? Oui, je débarque.
Donc la cuisine japonaise, l'un des emblèmes de la cuisine japonaise sont évidemment ces tempura, ces petites fritures. Ce ne sont pas les Japonais qui ont inventé la tempura. Là, je vais aussi vous faire un petit cours d'histoire gratuit. Hein,
J'aime quand vous jouez Alain Decaux.
C'est une recette à l'origine qui est portugaise. Et les Portugais au XVIe siècle sont allés au Japon. Ils ont colonisé une petite partie du Japon. Et ce sont eux qui ont apporté aux Japonais l'idée de ces fritures qu'ils mangeaient en général les jours maigres, les jours où ils n'avaient pas le droit de manger de la viande. Donc ils avaient créé cette petite recette qui a inspiré ensuite les Japonais. Et les Japonais l'ont allégée. Parce que ce qui est fantastique avec la tempura, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas gras.
Mais comment enfin, ça
comme le sanglier d'ailleurs.
Mais non.
C'est l'une des fritures les moins grasses qui soient.
Parce comment une friture comment grasse. Ce mec, il est sur l'échelle des fritures plus ou moins grasses.
C'est la friture la moins grasse qui soit parce c'est que justement, l'intérêt... l'intérêt de la tempura, c'est de protéger les aliments que vous allez frire.
Ah oui, c'est juste une protection.
De créer une petite croûte autour qui, au moment où elle va rentrer dans la friture, va, contrairement à ce qu'on peut penser, non pas se gorger d'huile, mais expulser l'eau qui est contenue à l'intérieur. Et donc, ça crée une barrière qui empêche la tempura d'être gorgée d'huile et ce qui la laisse croquante, d'ailleurs.
Moi, j'ai envie de dire au tempura, au mores.
Voilà.
Comment
aurait dit un pirate célèbre.
Et donc, pour cette recette extrêmement facile, il faut simplement trois ingrédients et une règle de base. Le premier ingrédient qu'il vous faut, c'est un œuf. Il vous faut ensuite un mélange. Alors, soit vous avez de la farine classique et vous allez rajouter un petit peu de maïzena, à peu près une centaine de grammes, soit vous achetez de la farine de riz, ce qu'utilisent les Japonais, ce qui est encore mieux, bien sûr, et ça se trouve dans les épiceries japonaises. Et puis, il vous faut de l'eau. Il vous faut de l'eau très froide. Ça, c'est le secret de la tempura.
Ça s'appelle un glaçon.
Non, il faut que l'eau soit très froide. Pourquoi ? Parce que, justement, il faut créer un choc thermique entre la pâte à tempura et l'huile de friture qui est à 180 degrés. Donc vous faites votre petit mélange, et ensuite on peut utiliser plein de choses pour faire de la tempura. Des petits bâtonnets de légumes, mais aussi des crevettes par exemple, des anneaux de calamar, des petits morceaux de poisson.
Oh oui.
Tout simplement, vous les passez dans la farine, vous plongez dans votre mélange à tempura, donc le mélange de l'eau froide, de l'œuf et de la farine, et ensuite, tac, dans une friture à 180 degrés, il se passe justement ce choc thermique, vous avez la croûte qui se forme autour, la tempura doit être légère et croustillante, et ensuite, dès qu'elle remonte en fait, elle est cuite, ça dure quelques secondes. Et dernière petite astuce, utilisez de l'eau gazeuse, ça rend votre tempura encore plus légère.
On remercie Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Ainsi s'achève ces 2 heures compilées de la semaine passée en compagnie de Mathieu Noël et qu'on va retrouver dès demain 16h sur Europe 1 avec le rappeur Oxmo Puccino. Suivront mardi la chanteuse Imani, mercredi Christophe Ondelatte, jeudi l'actrice Léa Drucker et on terminera la semaine avec le comédien François-Xavier Demaison. Dans un instant, le grand journal du soir sur Europe 1. Wendy Bouchard vous informe jusqu'à 20h.